Nous sommes le vendredi 23 septembre. Bonne journée à toutes et à tous.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, les premières convocations pour le front ukrainien arrivent dans les boîtes aux lettres des Russes. L'annonce de Vladimir Poutine provoque la fuite de nombreux appelés qui refusent la mobilisation. Reportage dans un instant à Istanbul, en Turquie. Les vendredis thématiques d'Europe 1, comme chaque semaine, votre rendez-vous hebdo. On s'intéresse aujourd'hui aux réseaux sociaux. Faut-il les bannir ou au contraire apprendre à les utiliser avec modération? On pose la question et toute la journée sur Europe 1 dans ce journal. Le témoignage poignant d'un adolescent victime de harcèlement. Et puis la réforme des retraites, le gouvernement pourrait renoncer à tenter le passage en force. Pas d'amendement, mais peut-être un projet de loi ad hoc présenté au Parlement en début d'année prochaine. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Combien sont-ils à refuser l'appel sous les drapeaux? Impossible ce matin d'évaluer avec précision le nombre de réservistes russes qui tentent de se soustraire à la mobilisation décrétée par Vladimir Poutine. Il y a bien sûr les images de ces voitures devant les postes frontières en Finlande ou en Géorgie. Il y a aussi les témoignages et nombre de ces déserteurs ont choisi l'avion direction Istanbul en Turquie. Rémi Trio, le correspondant d'Europe 1 sur place, les a rencontrés à leur arrivée à l'aéroport. Reportage.
Dans le hall d'arrivée de l'aéroport d'Istanbul, Piotr a l'air un peu perdu, mais soulagé. Ce développeur informatique de 29 ans arrive de Moscou avec un ami et il peine encore à croire qu'il a réussi à fuir.
On ne pensait pas qu'on allait y arriver. On croyait vraiment qu'à n'importe quel moment, quelqu'un allait surgir pour nous remettre un ordre de mobilisation. J'aime me dire que je me serais rendu si j'avais été mobilisé, mais bien entendu, j'aurais été terrifié et je ne sais pas ce que j'aurais fait jusqu'au décollage. C'était très stressant.
Avec une petite valise chacun, Anton et Anastasia viennent aussi d'atterrir en Turquie.
Elle avait un peu peur pour moi.
Pas juste un peu.
Tout juste mariés, ils ont eu de la chance de trouver une place sur un vol pour quitter leur pays.
Les gens ont peur de recevoir leur ordre de mobilisation. Les prix des vols ont été multipliés par 3. Un billet coûte environ 2 000 $.
Malgré ces prix élevés, tous les vols entre Moscou et Istanbul affichent complet jusqu'à la semaine prochaine et ces jeunes déserteurs ne prévoient pas de rentrer en Russie. À Istanbul, Rémi Trio, Europe 1.
Et cette guerre se joue aussi sur le terrain de la communication. Le président ukrainien Zelensky s'est adressé en russe via un message vidéo à ses futurs soldats. Protestez, luttez, fuyez, rendez-vous, ce sont les seules options pour survivre. Il y a ceux qui fuient et il y a aussi ceux qui s'engagent. Selon Moscou, près de 10 000 réservistes se sont déjà portés volontaires.
Il est 7h03. Faut-il fermer les réseaux sociaux? Dossier thématique du vendredi sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à ce soir, Facebook, TikTok, Instagram ou encore Twitter, ces plateformes sont devenues incontournables. Elles peuvent aussi transformer un quotidien en enfer.
L'enfer, c'est ce qu'a connu Jarod. Il a 21 ans aujourd'hui et un souvenir amer de ses années lycée. Son défaut, aux yeux de ses bourreaux, son embonpoint. Jarod était gros, insupportable pour ses camarades qui se sont acharnés sur lui. À l'époque, il a même pensé mettre fin à ses jours.
Je venais de changer de collège, j'étais un peu le petit nouveau. À l'époque, je faisais un peu plus en termes de kilos que je fais aujourd'hui. C'était pas mal des pointages du doigt, m'enlever ma chaise avant que je m'assoie en cours. Mais il y a eu aussi, bien sûr, une version virtuelle, donc du cyberharcèlement, beaucoup plus violent. Il y a pas mal de gens qui prenaient des photos de moi discrètement et qui les publiaient, en fait, dans un groupe Facebook. Et il devait avoir 30, 35, 40 personnes dans ce groupe Facebook. Certaines personnes sont venues devant chez moi prendre des photos de moi quand je sortais de chez moi. Sur le même groupe Facebook, il y avait aussi des photos montage de moi en train de pratiquer des actes sexuels avec des professeurs. Notamment, certains montages, ils ont été carrément affichés dans certaines toilettes du collège. Après cette grosse période de harcèlement, j'ai fait une assez violente dépression à l'époque. J'ai perdu environ 20 kilos. J'avais quand même fait une tentative de suicide à cette époque-là. J'avais parlé en fait légèrement du harcèlement physique, mais pas celui du cyber. Donc en fait, je gardais beaucoup pour moi.
Jarod, ancien élève de lycée, témoignage poignant recueilli par Alexandra Gégy.
Allez, on va continuer toute la journée de dérouler ce thème des réseaux sociaux. Dans quelques minutes, Mickaël Stora, psychologue, psychanalyste, sera avec nous. Le gouvernement, pied au plancher sur les énergies renouvelables.
Emmanuel Macron a profité de l'inauguration du premier parc éolien en mer à Saint-Nazaire pour afficher sa volonté. Il faut aller 2 fois plus vite dans la création de parcs éoliennes. Même chose sur le voltaïque, l'énergie solaire. Eh bien, au Mans, la SNCF lance une expérience à grande échelle. Une ferme solaire vient de sortir de terre au beau milieu d'une gare de triage. Reportage Charles Guyard.
Le fait que la SNCF est le premier consommateur d'énergie nous oblige à participer à cet effort de guerre.
L'effort de guerre pour Laurent Fèvre, directeur Centre-Ouest de SNCF Immobilier, c'est le déploiement des énergies vertes et pour cela, la compagnie ferroviaire a de sérieux atouts.
On a aujourd'hui 19 000 hectares de foncier. Quand on a une inutilité ferroviaire, on réfléchit aussi à la reconversion d'un certain nombre de ces fonciers vers des fermes photovoltaïques.
Exemple à la gare de triage d'Arnage au moment où la SNCF a signé un bail de 25 ans avec une société spécialisée pour installer et gérer 30 000 panneaux solaires sur une vaste friche inexploitée de 17 hectares. Thomas Mézeret, d'Arcolia Énergie.
C'est une centrale qui produit annuellement, ce qui représente la consommation d'à peu près 4500 foyers.
Un rendement qui prouve que le solaire n'est pas une technologie réservée aux régions du Sud. Ici, le taux d'ensoleillement est d'en moyenne 80 jours environ par an. Et pourtant, en tendant l'oreille, on entend distinctement le bruit d'un onduleur.
Là, il marche à plein régime. Donc il y a deux onduleurs aujourd'hui sur cette centrale qui vont convertir ce courant continu en courant alternatif pour pouvoir injecter directement l'énergie sur le réseau.
Un réseau plus faiblement alimenté en hiver, ici en Sarthe, faute de soleil, d'où l'intérêt de multiplier ce genre d'installation dans tout le pays.
Sur toute la France, il est possible aujourd'hui d'installer des panneaux photovoltaïques.
Le Mans, Charles Guyard, Europe 1.
Autre grand dossier du moment, la réforme des retraites, le gouvernement pourrait lâcher du lest.
Et Elisabeth Borne abordera la question à l'occasion d'un déjeuner ce midi avec Emmanuel Macron. La première ministre va tenter de dissuader le chef de l'État de passer en force via un amendement au projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Avec cet argument, la menace d'une censure du gouvernement est réelle. La NUPES et le Rassemblement national se disent prêts à la voter ensemble. Raison de plus pour temporiser, rappelle le président du Modem, François Bayrou.
Je suis certain depuis le premier jour que ça ne pourra pas se faire. Parce que je connais le président de la République, je sais qu'il écoute, je sais qu'il observe les sentiments du pays, je sais combien la préparation des réformes est nécessaire pour que les réformes aboutissent. Il a dit ça pendant toute sa campagne électorale. Et donc, je n'ai jamais cru qu'on pourrait imposer une démarche de passage en force ou à l'improviste. Jamais cru. Donc j'ai maintenu ma position et j'ai l'impression, en tout cas en écoutant ce que la Première ministre a dit, que c'était des arguments qui étaient pris en compte.
Ah, François Bayrou, le président du Modem, au micro d'Arthur Delaborde. Et si ce n'est pas un amendement, eh bien ce sera un projet de loi à part entière, présentation possible au Parlement début 2023. Les feux de forêt ont largement occupé l'actualité de cet été. Ils étaient le plus souvent d'origine criminelle. Au moins 48 incendiaires présumés ont été interpellés dans toute la France. Premier bilan, et il est encore provisoire, dressé par les gendarmes.
Allez, le football, les Bleus ont gagné hier soir et se sont un peu rassurés face à l'Autriche.
Une victoire 2-0 qui permet aux Bleus de se relancer dans cette Ligue des Nations. De quoi éloigner pour quelques temps les nuages qui s'accumule au-dessus du football français. Une belle soirée, Cyril de la Morinerie, en dépit des blessures.
Oui, les Bleus ont retrouvé le sourire. Après 4 matchs sans victoire, les champions du monde ont signé un succès important et rassurant à 2 mois du Mondial. Les Français se sont relancés dans la Ligue des Nations, mais surtout, ils ont totalement dominé les Autrichiens. Les champions du monde ont gagné, souligne le sélectionneur Didier Deschamps.
Il n'y a rien de mieux que la victoire, même si le score aurait pu être beaucoup plus lourd. On a eu la chance encore aujourd'hui d'avoir une belle ambiance au Stade de France. Voilà, c'est une très belle soirée.
Le public s'est enflammé sur le but de Kylian Mbappé et s'est levé pour Olivier Giroud. L'attaquant français s'est encore rapproché de Thierry Henry. Il n'a plus que 2 buts à inscrire pour égaler le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Mais surtout à 35 ans et 357 jours, Olivier Giroud est devenu le buteur le plus âgé de l'histoire de l'équipe de France. Cette nouvelle performance XXL va-t-elle convaincre Didier Deschamps de l'emmener au Qatar pour la prochaine Coupe du Monde ? Les supporters qui ont ovationné au Stade de France Olivier Giroud en rêvent.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Prochain match, ce sera dimanche contre le Danemark, mais à Copenhague.
Et à Copenhague, effectivement. Merci Christophe Lamarre, c'était votre journal. Et 7h09 sur Europe 1. Faut-il fermer les réseaux sociaux ? C'est notre vendredi thématique jusqu'à ce soir. Le psychologue, psychanalyste Michael Stora, auteur de nombreux ouvrages sur l'hyperconnexion, est notre invité dans un instant.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Toutes les semaines, Europe 1 vous propose un vendredi thématique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, faut-il les fermer ? Alban nous disait à l'instant qu'en Iran,
on ferme les réseaux sociaux dans ce contexte très inflammable autour du voile. Est-ce qu'il n'y a que les ennemis de la liberté qui souhaitent fermer les réseaux sociaux? C'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, allez en parler aux plus de 4,5 milliards d'utilisateurs actifs de réseaux sociaux dans le monde. Il y a beaucoup d'arguments pourtant qui plaideraient pour au moins leur régulation. Bonjour Michael Stora.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes psychologue, vous êtes psychanalyste, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, auteur aussi de très nombreux ouvrages sur notre rapport aux écrans, au virtuel, les effets de l'hyperconnexion. Le dernier en date, je le signale, paru l'an dernier chez Larousse, Les réseaux sociaux, découvrez le côté obscur des algorithmes.
Alors peut-être que vous n'avez pas lu, mais c'est les réseaux asociaux.
Oui, alors voilà, j'allais le dire.
D'accord,
j'allais le dire.
Okay.
Oui, parce que votre thèse justement, c'est que par l'addiction que suscitent les réseaux sociaux, la frustration, l'enfermement sur soi, les fake news, etc., les réseaux sociaux nous rendraient asociaux. Mais alors, d'abord, ça pose plein de questions. C'est quoi être social si vous nous dites que les réseaux sociaux nous rendent asociaux?
Alors, être social, c'est justement intéressant. C'est-à-dire, c'est cette capacité à discuter, même si on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, c'est cette question de se dire que la différence en soi est une richesse. L'étranger, d'une certaine manière, nous apprend des choses et il faut l'accueillir. Et on s'est rendu compte, dans la manière dont certains réseaux sociaux, disons les choses, Facebook d'abord, et Instagram, sa petite sœur, ont d'une certaine manière, à travers une sorte de philosophie, mais aussi des astuces, entre guillemets, de bonne conscience, comme évitons les propos haineux, créent des bulles algorithmiques, par exemple, qui vont faire que on va vous présenter des gens comme potentiels amis qui pensent comme vous. Et donc, ça veut dire qu'on se retrouve dans un salon. Alors, imaginez quand on a affaire à des gens qui ont peut-être une capacité à penser les choses, ça va. Mais quand on a affaire à des gens extrémistes, quand on a affaire à des gens qui peut-être, au fond, ont des rejets envers l'autre, on va nourrir d'une certaine manière cette haine. Donc, il y a une sorte de clivage.
Oui. Les bisounours vont rester entre eux, mais les gens qui veulent les manger aussi. C'est
voilà,
ça l'idée.
C'est ça.
Et donc, mais alors, parce que, pardonnez-moi, mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites, avec l'objectif de lutter contre les propos haineux, les réseaux sociaux ont mis en place ces algorithmes qui visent à générer davantage de consensus.
Ouais.
Et vous dites que finalement, ça n'est absolument pas une solution.
Non. Évidemment. Évidemment, parce qu'il y a évidemment ces propos haineux, on a vu des histoires terribles, j'ai entendu ce fameux garçon qui a vécu du bashing, c'est-à-dire du harcèlement sur Internet, mais au-delà de tout ça, se pose une autre question, beaucoup plus complexe et même d'ordre économique, c'est la question de la modération. Peut-être que vous avez été au courant qu'il y avait 700 modérateurs pour 70 millions de personnes parlant la langue arabe. 700 modérateurs qui parlent arabe, ce qui est rien.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'il y a aussi derrière une logique économique et on se rend compte que derrière des décisions politiques, il y a avant tout une logique économique et ça c'est très très inquiétant.
Ouais. Alors il y a beaucoup de sujets parce que par exemple l'histoire de Jarod qu'on racontait dans le journal de 7 heures, c'est-à-dire que c'est dans la vie réelle, un garçon qui aurait probablement été harcelé même sans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une caisse de résonance, amplifient finalement le problème, le démultiplient. Et puis il y a ces réseaux sociaux pour ce qu'ils sont aussi, à savoir qu'ils sont l'occasion, c'est votre expression, d'éditorialiser nos vies. C'est-à-dire cette mise en scène permanente de soi-même à travers son nouveau vêtement, le lieu où l'on se trouve, etc.
Oui, alors ça, c'est vrai que ça fait partie d'une forme de philosophie très nord-californienne, always smile, et puis surtout de la consommation. Et donc, c'est vrai que...
Sourire, c'est ça, etc.
Toujours sourire, oui, c'est ça, pardon. Et donc, ce qui est vrai, c'est qu'au fond, les modèles que l'on propose, entre autres, à beaucoup de jeunes femmes, mais aussi de jeunes hommes, parce que je m'intéresse beaucoup à la jeunesse et aux effets, c'est-à-dire une proposition où on va très très bien, où on est beau, où on est et on va faire du placement de produits, toute cette sorte de gloubi-boulga, disons les choses, qui finalement vont être du côté d'un idéal sociétal, alors que finalement ça renvoie à un désir, c'est-à-dire j'aimerais être comme eux, mais en même temps une culpabilité, je n'y arrive pas. Et il suffit d'avoir finalement un corps à l'adolescence, d'autant plus qu'en pleine transformation, c'est un moment de très grande fragilité pour se rendre compte à quel point ça peut être très violent. Et d'ailleurs, il y a eu Frances Haugen, la fameuse lanceuse d'alerte de Facebook, qui a montré les ravages.
Voilà, qui travaillait chez Facebook.
Complètement.
Et qui a, quelque part, livré quelques-uns des secrets, ouvert la boîte noire de Facebook, qu'est-ce qui se passe dans la régulation, et montré que d'ailleurs, les régulateurs de Facebook, les gens qui développent les algorithmes, ne savent même pas exactement comment ça marche même.
Totalement. Et puis souvent, soyons nets, ils sont conscients, puisque en effet, il y avait des documents qui disaient « on prend conscience », entre autres avec Instagram sur la question des filtres, qui donne une sorte d'image complètement idéalisée et faussée,
oui.
qu'il faut correspondre à une image qui n'est pas soi. Voilà. Et alors, ça, c'est vrai que ça crée de la souffrance.
Vous évoquez ces Facebook Files, donc ces documents parus l'an dernier, qui montraient cette réalité cruelle. C'est que Facebook, à un moment, est en perte de vitesse, il y a moins d'engagement dans les publications, c'est-à-dire qu'on les partage moins, etc. Et donc, Facebook va réaliser que la conflictualité, finalement, fait le succès du réseau social. Et voilà le piège qui se met en place, à savoir que le réseau a finalement intérêt à ce que les gens, quelque part, s'entretuent virtuellement, d'une certaine manière, Michael Stora.
Oui, alors évidemment, d'un côté, il y a cette filtre algorithmique, mais de l'autre, alors je ne sais pas s'il y a une idée de créer du conflit, mais de créer de l'envie.
De l'antagonisme et de l'envie. Ouais.
C'est ça, oui. Parce qu'au fond, il faut bien comprendre que la publicité a toujours fonctionné sur cette idée de correspondre à un idéal, mais l'idéal ne fait que nous renvoyer à une position d'impuissance et donc peut créer de la colère. Mmh. On peut même aller plus loin. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes est né sur Facebook. Et c'est vrai que pour toute personne issue d'une classe très moyenne qui n'a pas les moyens de se payer des choses, qu'est-ce qu'il va voir ? Des gens qui étalent le luxe, la richesse, la consommation, oui. Et ce qui va faire, parce que l'être humain se compare, mais au lieu de se comparer pour se rassembler, là on se compare pour se diviser.
Mais
ça, c'est très inquiétant.
Mais on voit l'ambivalence aussi, c'est que quelque part, le mouvement des Gilets jaunes est un révélateur social. Aurait-il pu exister sans les réseaux sociaux ? Est-ce un mal que ce mouvement soit né d'une certaine manière ? C'est une question extrêmement politique.
Oui, je donne un point de vue. D'un point de vue personnel, je pense que c'était important qu'il y ait à certains moments des mouvements qui crient, qui disent qu'il y a quelque chose qui ne va plus.
Regardez les femmes en Iran actuellement.
Bien sûr. Voilà. Mais alors c'est intéressant parce qu'on se rend compte que tous les pays où la liberté est en danger, étrangement, ces réseaux-là ont vraiment un intérêt. Mmh. Parce que justement, ils peuvent porter une parole. Par contre, nous, dans nos pays dits démocratiques, on se rend compte que là, ces réseaux sociaux ont tendance plutôt à faire du mal. Comment retravailler, comment repenser les choses, c'est vrai que c'est un enjeu important pour l'avenir.
C'est vrai que c'est documenté que la vérité est toujours en retard sur la propagation des fake news qui sont plus sexy. Mais je reviens aussi, vous êtes psychologue, psychanalyste. Ouais. Qu'est-ce qui permet de parler d'addiction aux réseaux sociaux ? Est-ce d'ailleurs reconnu comme une pathologie ? Parce que si pathologie il y a, j'en crois qu'il n'y en a qu'une seule, c'est à la guerre des jeux vidéo qu'on reconnaît une addiction, que l'OMS reconnaît une addiction.
Complètement. Donc la seule addiction virtuelle reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est ce qu'ils appellent « video game disorder », c'est-à-dire l'addiction, entre guillemets, le trouble du jeu vidéo qui a été, entre guillemets, reconnu, qui est d'ailleurs un concept qui n'est pas toujours accepté par tous mes collègues. Mais pour le moment, on n'arrive pas. On a parlé de potentialité d'addiction, mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on rentre dans le détail, lorsqu'on voit la manière dont on a tous un rapport parfois complètement adhésif à ce portable, on swipe, on allume notre portable presque 200 fois par jour. Oui. Et en effet, on voit des astuces addictogènes qui vont faire qu'on aura du mal. On se rend compte à quel point la puissance affective que l'on a vis-à-vis de nos réseaux sociaux fait que finalement on se retrouve dans un espace où on est bien, où on est...
Les astuces addictogènes déployées par les réseaux sociaux, hein, parce que c'est d'eux dont on parle.
Oui, alors c'est ça, parce qu'en fin de compte, il y a, entre autres aux États-Unis, des diplômes de captation de l'attention. C'est assez diabolique, je vous donne un exemple, entre autres sur TikTok. Alors c'est pas américain, mais néanmoins ils utilisent ces techniques, qui fait que grâce à l'algorithme, vous allez retrouver un fil qui vous rassure, un fil doudou, ce que j'appelle moi un fil doudou. Par exemple, les chatons, hein, les animaux, beaucoup de gens, c'est le nouvel antidépresseur à la mode. Vous regardez ça, vous êtes content. Et puis à un moment, on va vous balancer une image inquiétante, choquante, assez violente. Vous ne comprenez pas très bien. Et à ce moment-là, un peu comme un bébé, vous êtes anxieux et il faut à tout prix retrouver son doudou pour se réassurer.
Donc
et là,
reste.
Vous allez retrouver votre fil. Et finalement, à partir de ce moment-là, vous ne voyez plus vraiment le temps passer.
Voilà l'algorithme, c'est absolument passionnant, c'est à découvrir dans votre dernier livre, un réseau asociaux, donc le A entre parenthèses, le côté obscur des algorithmes pour aller plus avant dans le sujet. Merci Michael Stora.
Merci à vous.
D'être venu sur Europe 1 nous parler ce matin, je rappelle que vous êtes psychologue, psychanalyste et cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Bonne journée à vous.
Merci vous aussi.
Il est 7h22.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Faut-il fermer les réseaux sociaux face aux dérives ? Question aujourd'hui sur Europe 1, vendredi thématique, comme toutes les semaines, pour qu'ils soient en tout cas moins anxiogènes. Frances Haugen, dont vous venez de parler, ingénieur et ex-employé de Facebook, qui a fait fuiter l'année dernière des documents embarrassants, a annoncé hier le lancement d'une ONG avec pour objectif de rendre les réseaux sociaux plus sains. Protester, lutter, fuyer, le message hier de Volodymyr Zelensky aux réservistes russes. russes dont la mobilisation partielle a été annoncée par Vladimir Poutine. Les premiers ont été convoqués hier. Et puis le paquet de cigarettes va-t-il franchir le seuil des 11 euros? Selon les Échos, ce matin, le gouvernement envisage d'augmenter la fiscalité sur le tabac, ce qui entraînerait une hausse de 70 centimes environ par paquet.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie.
C'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Demain, samedi 24 septembre, a lieu la Technoparade. Vous aurez peut-être reconnu Laurent Garnier en toile de fond. Après deux années blanches à cause de la crise sanitaire, elle revient donc cette Technoparade et son traditionnel défilé de chars et de teufeurs. La première édition a eu lieu en 1998 avec pour parrain l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. La Technoparade, petite sœur de la Laufparade berlinoise lors d'Autriche.
Une manifestation à l'origine contre le mur de Berlin qui coupe la ville en deux et qui rassemble des centaines de milliers de personnes.
Ça vaut la peine de voir un million de personnes qui s'entendent, qui viennent faire la même chose. Ça laisse penser qu'on pourrait peut-être arriver à ce que le monde entier s'entende. Je sais pas, c'est l'utopie, mais ça fait du bien d'y croire pendant une journée par an.
Sur place, le journaliste d'Europe 1, Manuel Saint-Paul, raconte.
L'ancien ministre de la Culture veut changer la réputation de la techno en France.
Les rêves étaient présentés comme des lieux du diable, comme des lieux de perversion, alors que, paradoxalement, il n'y a pas un public plus bon enfant que les participants aux rêves ou aux concerts techno. Ce n'est pas faux que parfois vous pouvez trouver ici ou là des drogues et parfois des drogues dangereuses. Mais ce n'est pas spécial à la techno.
Et l'année suivante, donc, Jack Lang crée la Technoparade en France.
Et c'est un immense succès. 200 000 personnes vont participer à cette première édition française.
Oui, une circulaire interministérielle sera même rédigée reconnaissant l'aspect culturel de la techno. Gad Vell, le producteur de la première Technoparade, se réjouit que ce genre musical soit reconnu.
Je pense que le grand public commence à comprendre que les fans de techno, c'est un public très dynamique, c'est la jeunesse telle qu'elle s'exprime aujourd'hui dans la rue, et que finalement cette musique qu'ils croyaient, underground, qu'ils croyaient très particulière, est une musique qu'ils commencent à apprécier.
Et sous les fenêtres des Parisiens, ce DJ dit Franck fait découvrir son univers.
On leur amène là directement la vision qu'on a nous et on essaie de la faire partager. Donc ouais, c'est bien que justement ça peut ramener encore des gens. C'est pour pas que ça s'essouffle, il faut qu'il y ait des nouveaux courants, des nouveaux acteurs et un nouveau public.
La Technoparade rassemble en moyenne 300 000 personnes.
Voilà, donc occasion de sortie avec les enfants peut-être. C'est assez bon enfant dans l'ensemble, c'est l'après-midi. Après, le soir, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Dans quelques minutes, le journal de Romain Oquet, juste après les perles de culture de nos deux explorateurs du jour. Le livre du jour Nicolas Caro, un classique, Dracula, et les sorties de la semaine, sorties musicales avec Stéphanie Loire. À tout de suite.
Europe Matin,
7h, 9h.
Dimitri Pavlenko.
Finir ici à Londres avec les meilleurs joueurs du monde signifie beaucoup pour moi. Ça fait plaisir d'être là. J'espère aussi vivre des moments très forts.
Voilà, la voix grave, toujours contrôlée, mais empreinte d'émotion de Roger Federer. Il sera servi ce soir pour ses adieux. Le champion jouera aux côtés de son plus grand rival, Rafael Nadal. Nous serons en Suisse dans un instant, le pays du maestro qui ne manquera pas une miette de ce dernier match. Près de 20% des ados sont concernés. Le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. C'est votre vendredi thématique sur Europe 1 jusqu'à ce soir. Tiens, quels sont les bons réflexes à adopter lorsque l'on va sur Internet? Faut-il songer à ajouter au corpus de l'éducation nationale une éducation numérique? On en parle tout au long de la journée. Et puis le réchauffement climatique, peut-être plus fort que nos maisons. 100 000 foyers ont subi des dégâts cet été. La faute au sol argileux qui creuse d'importantes fissures. Reportage en Aveyron dans ce journal.
Dimitri Pavlenko.
Votre matinale info sur Europe 1.
Et c'est Roman Oquet qui vous amène l'info. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Que demander de plus? Federer Nadal en double, une affiche de rêve pour le dernier match du maestro suisse avant sa retraite. Ce soir, à Londres, ils seront du même côté du filet pour la Laver Cup. Épilogue d'une histoire née en 2004 pour leur premier face-à-face. D'ailleurs, quelle rencontre garde-t-il en mémoire? Réponse hier lors d'une conférence de presse qui a réuni les deux stars. Rafael Nadal a pris la parole en premier.
Je dois citer la finale de Wimbledon en 2008 que j'ai remportée. C'est toujours spécial pour moi, bien sûr, mais aussi pour lui.
Vraiment?
Ah oui, c'est bon, tout est en train de revenir. Mais oui, je dois la choisir. Et je pense aussi à la finale de 2017 en Australie, que tu as remportée, Roger. Elle était vraiment spéciale. Je pense que ces deux moments, avec des fins différentes, ont été très spéciaux.
Voilà, il faut voir la scène. Hein. Les deux compères, Nadal, tout sourire, qui tape comme ça sur la cuisse de son coéquipier Federer. Rendez-vous compte, complicité, qu'on va avoir plaisir à voir sur le terrain ce soir.
Oui, le Suisse offrira une dernière démonstration avant de tirer sa révérence. Des adieux douloureux aussi pour son public, à commencer, bien sûr, par les Suisses, le pays du champion. Le reportage de Caroline Baudry, envoyée spéciale à Genève pour Europe 1.
Roger Forever, titre en une, un hebdomadaire en vente dans un kiosque sur le parvis de la gare où flottent trois drapeaux suisses, c'est l'heure de pointe. Fin de journée pour Sylvain et Raphaël et fin du suspense pour ces deux fans de tennis.
Il va jouer avec Raphaël Nadal, c'est pas vrai?
En double.
C'est super. C'est un beau clin d'œil, hein. C'était je pense les plus grands rivaux de ces 20 dernières années, donc c'est une belle fin de l'histoire.
C'est une super grande... amitié entre les deux, deux personnalités exceptionnelles.
Agathe referme sa doudoune en sortant du hall de gare. Cette habitante de Genève confie suivre de loin le tennis, mais elle regrettera le sportif et l'homme.
C'est un génie, quoi, au niveau sportif et tout. Jamais dire « Oh, je gagne et puis je suis le meilleur ». Il a toujours su se réjouir, mais dans une grande retenue.
Valentin, chauffeur de taxi, attend les clients. Ce soir, c'est dans son véhicule qu'il espère suivre le match.
Si c'est diffusé à la radio, oui. Roger Federer, c'est le premier citoyen suisse, le premier ambassadeur de Suisse dans le monde entier. C'est comme Coca-Cola. Tout le monde le connaît.
Genève, Caroline Baudry, Europe 1.
Voilà, c'est comme Coca, Roger Federer. Et c'est ça, Europe 1.
La comparaison est marquante, oui.
Ouais, c'est ça, Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros et du tennis. Tiens, êtes-vous sûr que votre enfant est en sécurité lorsqu'il navigue sur les réseaux sociaux?
Et oui, 20% des jeunes entre 8 et 18 ans ont déjà été victimes de cyberharcèlement, des menaces, des insultes en ligne ou quand le quotidien devient un enfer pour ces ados.
Voilà, c'est l'une des facettes de ce dossier de notre vendredi thématique sur Europe 1. Faut-il fermer les réseaux sociaux? Alors les parents, pour les enfants, sont évidemment les premiers remparts. Et l'école dans tout ça, quel est son rôle?
Oui, car utiliser TikTok ou Instagram par exemple, c'est comme tout, ça s'apprend. Le ministère de l'Éducation nationale a élaboré un programme Internet sans crainte, un cours adressé aux 6e axé sur les bons comportements, des outils indispensables, hein, Louise Salé.
Oui, rappelez-vous de la rentrée des 6e. L'année dernière, ils avaient été accueillis dans une ambiance anxiogène par le hashtag anti-2010. Cette année, un autre slogan se veut plus positif. Bienvenue les 6e. C'est le titre aussi de ce cours enseigné dans les collèges volontaires. Des vidéos, des fiches pédagogiques sont mises à disposition des profs gratuitement.
Si tu supprimes une photo, elle restera tout de même enregistrée, même sur les réseaux éphémères.
Axel Dessin dirige le programme Internet sans crainte à l'origine de ce projet.
Donc les bonnes pratiques qu'on veut leur faire passer, c'est déjà d'être respectueux les uns avec les autres, de se rappeler que derrière un écran, il y a une vraie personne et que c'est important de bien se comporter avec elle pour éviter justement que s'installent des situations de cyberviolence. Ensuite, sur la protection des données personnelles, l'enjeu, c'est surtout le plus longtemps possible de choisir un pseudonyme, de choisir un avatar, de ne pas partager des informations qui vont permettre de découvrir l'identité ou savoir où on habite, par exemple.
Et ce cours se prolonge en famille, le soir, avec les parents.
Rappelez-lui que les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok et même YouTube, interdisent l'accès à leur service avant 13 ans.
La vigilance des adultes est importante à solliciter car c'est grâce à elle que des situations de cyberharcèlement se débloquent.
Louise Salé.
Tiens, en bref, début il y a quelques minutes, l'un des référendums d'annexion par la Russie dans les régions séparatistes pro-russes de Donetsk et Lugansk, de même que dans les zones sous occupation russe des régions de Kherson et Zaporizhia. On vous en reparlera évidemment tout à l'heure dans le journal de 8h.
7h35 sur Europe 1. Un matin, on se réveille et là, c'est la tuile, façade fissurée, en encadrement de portes déformées dans près de 100 000 maisons en France. La sécheresse a fait des dégâts cet été.
Et les dégâts sont évalués, les dommages sont évalués entre 1,6 milliard et 2,4 milliards d'euros, nous dit France Assureur. De quoi battre platement le précédent record de 2003, l'année de la canicule historique.
Oui, parce que le problème, ce sont les sols argileux qui se déforment en fait au gré des aléas climatiques, y compris dans les territoires peu habitués aux fortes chaleurs. C'est le cas de l'Aveyron, où notre correspondant Benjamin Péter a fait le tour du propriétaire avec les habitants de Villefranche-de-Rouergue.
Ça y était pas, ça. Ça, c'est depuis 2 ou 3 jours. Hein. Ah, même là, celle-là, il n'y était pas. Tous les jours, ça gagne un peu plus.
C'est début août que René a vu apparaître les premières fissures. Depuis, il en découvre de nouvelles tous les jours. Il peut passer la main dans celle qui lézarde sa façade. Une autre traverse le plafond de la chambre à coucher. Et il ne peut même plus fermer certaines fenêtres.
J'avais même mis un peu de mastic, moi, pour voir la différence. C'est que ça s'est étiré encore plus. Pour la fenêtre, c'est pas la peine. Et je voulais la remonter, mais j'ai commencé. Mais c'est pas la peine, parce que regardez la différence de niveau. Et les carreaux se casse.
Une situation qui inquiète Marinette, son épouse.
Moi, je m'inquiète. Tous les jours un peu plus, elle va me tomber dessus, la maison.
De l'autre côté de la rue, Gilbert, son voisin, voit les mêmes fissures apparaître sur les murs et sa terrasse se déformer.
On n'a jamais vu comme ça. Hein. C'est hyper sec. Il y a tout qui se déforme. Hein. J'ai fait ces pavés, là. Ils se soulèvent, alors que tout était de niveau, tout était nickel, quoi. Ça travaille, ouais. Même là, j'ai été obligé de refaire des joints du carrelage, parce que suite à la chaleur. Hein.
Alors, ils ont alerté la mairie, espèrent un arrêté préfectoral maintenant de catastrophe naturelle pour que les travaux de remise en état ne soient pas à leur charge. À Villefranche-de-Rouergue, Benjamin Péter, Europe 1.
C'était la surprise des Bleus. L'équipe de France de basket a donné le ton hier pour le premier match du mondial féminin.
Voilà, victoire 57-70 face à l'Australie pour les joueuses tricolores qui devront confirmer à 10h ce matin face au Canada.
Et la semaine dernière, l'équipe masculine avait déjà remporté l'argent à l'Euro. Des joueurs qui ont repris désormais les matchs en club. C'est le début de la Betclic Elite, le championnat de France de basket qui démarre donc ce soir. Et sur les parquets, il y aura une pépite française. Oui, Victor Wembanyama, un joueur de taille que nous présente Martin Lange.
2m21 sous la toise, 2m44 d'envergure. Victor Wembanyama, c'est d'abord un physique hors norme, du jamais vu dans le basket français. Mais le géant a aussi des mains en or. C'est simple, le gamin déchaîné sait tout faire sur un terrain. Dribbler, passer, shooter de près comme de loin. Des qualités qui lui ont permis de débuter sa carrière très tôt, à 15 ans seulement. Depuis, le monde entier a les yeux rivés sur le prodige.
Ce que je fais, c'est pour moi-même en fait. Tout ce que je réussis, tout ce que j'entreprends, ça découle de moi, de ma réflexion et de mon travail en fait. Ça découle de l'attente de personne.
Une confiance à toute épreuve et un plan de carrière qui rappelle un certain Kylian Mbappé. Cet été, Wembanyama est rentré en région parisienne, aux Metropolitans, pour disputer sa dernière saison en France. L'an prochain, c'est la NBA et Wembanyama n'a qu'un rêve, la première place de la draft.
C'est mieux d'être deuxième, troisième ou 20e de la draft si après on a une meilleure carrière. Mais j'ai toujours cette part de, je sais pas si c'est de la fierté de me dire qu'il faut qu'il y ait personne devant moi, quoi. C'est moi qui dois être au-dessus.
Ça tombe bien pour les bookmakers, c'est le grand favori, ce qui serait une première historique pour le basket français.
Martin Lange, Dimitri, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fêté un anniversaire ensemble. Alors, celui qu'on cherche nous a quitté il y a tout juste 52 ans.
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma
facile,
mère.
Hein.
Bonville.
Évidemment, voilà la salade de
Bonvello.
Je me suis dit que c'était une bonne musique pour démarrer le week-end.
Ah,
voilà,
vous
en
avez
douceur.
Parfaitement raison. Merci beaucoup, Roman. Ok, une salade de fruits le matin, rien de tel, effectivement, surtout si c'est Bourville qui nous la prépare. Tiens, salade de fruits culturelle dans un instant avec Nicolas Carreau, le livre du jour. Oh là là.
C'est un anniversaire de quelqu'un qui ne meurt jamais.
Transylvanie.
Un nom mort.
Voilà, et Stéphanie Loire. Oula, disco.
Oui, disco, je vous emmène en club ce matin.
Allez, à tout de suite.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
7h42, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont fait toute la semaine la playlist des séries qu'ils allaient regarder ce week-end. Il y a aussi, pourquoi pas choisir un bon bouquin et un bon CD, n'est-ce pas, Nicolas Carreau, Stéphanie Loire. Roman culte avec vous, Nicolas, dans un instant. Et alors, bon, musique culte aussi, un classique de chez classique, c'est Ron.
Disco, on sort les pattes d'Ef.
Voilà, voilà. Dans le manoir en Transylvanie, oui, pourquoi pas, ça peut être un genre. Mais d'abord, vendredi thématique sur Europe 1, faut-il fermer les réseaux sociaux? Question volontairement provocante, vous l'avez compris, mais pour souligner tous les enjeux qui se cachent derrière eux, direction les États-Unis ce matin. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour Dimitri.
Et oui, regard du monde entier sur cette même thématique des réseaux sociaux. Chez vous, l'addiction aux réseaux est très très répandue. Depuis plusieurs années, les Américains se sont convertis à la désintoxication numérique. Mais qu'est-ce que c'est ?
Oui, ici on parle de digital detox et ça part d'un constat simple. Les Américains passent beaucoup de temps devant les écrans. C'est un peu au-dessus de la moyenne mondiale avec plus de 7 heures par jour en moyenne, dont 4h15 sur leur téléphone portable. Dans les enquêtes d'opinion, plus de 3/4 des Américains disent vouloir s'éloigner de leurs écrans pendant leurs vacances. Et c'est aussi pour cela que ces séjours de digital detox se sont développés, notamment autour des grandes villes. John Quirk propose par exemple des séjours de retraite numérique dans le sud de la Californie.
Tout ce que vous allez expérimenter dans ce genre de retraite, c'est l'opportunité d'échapper au quotidien. Ne pas avoir constamment quelque chose à faire, les rendez-vous qui s'enchaînent, ne pas faire défiler vos fils d'actualité. En plus, on veut donner des informations scientifique sur ce qui se passe vraiment dans le cerveau, le système nerveux. Mais vraiment, l'idée principale, c'est que ça change les gens. C'est une opportunité de décompresser. C'est le pouvoir de ce genre de retraite. Les participants s'ouvrent les uns aux autres. C'est sain et thérapeutique.
Alors que fait-on pendant ces retraites numériques ? Eh bien, du yoga, de la méditation. On peut même parfois demander aux participants de laisser le téléphone dans une boîte au début du séjour. Parfois, les règles sont plus souples avec les téléphones dans la chambre pendant la journée, mais l'idée, en tout cas, c'est toujours la même. Essayez autant que possible de se déconnecter pour interagir humainement. Et c'est un filon en or, un luxe, hein, puisque ces séjours coûtent extrêmement cher, plusieurs centaines, voire 1000 dollars pour quelques jours. Donc c'est évidemment réservé aux Américains les plus riches.
Alors ce qui est marquant, Alexis, c'est aussi que les grands leaders de la Silicon Valley sont les premiers à prendre d'énormes précautions avec les réseaux sociaux. Mark Zuckerberg, par exemple, fondateur de Facebook, il vient d'avoir un troisième enfant et il limite considérablement leur temps d'écran.
Oui, exactement. Mark Zuckerberg dit que pour ses enfants, il limite les écrans seulement pour les relations humaines, une visio avec les grands-parents par exemple. De nombreux cadres de la Silicon Valley vont dans ce sens. Ils expliquent strictement contrôler non seulement le temps d'écran pour leurs enfants, mais aussi leur accès à ces outils technologiques. Pas de téléphone portable avant 14 ans chez les enfants de Bill Gates par exemple. D'ailleurs, la Waldorf School of the Peninsula, qui est sans doute l'établissement privé le plus prisé de la Silicon Valley, où tous les cadres de la tech envoient leurs enfants, eh bien cet établissement a totalement banni les écrans au début des années 2010. C'est d'ailleurs pas un hasard, hein, si les digital detox dont on parlait se sont avant tout développés en Californie, notamment dans cette région, parce qu'il y a une prise de conscience des dangers des écrans et des réseaux sociaux. Écoutez Shamat Palihapitiya, un des premiers cadres dirigeants de Facebook, où il a travaillé jusqu'en 2011. Et bien en 2017, il parlait de ces dangers devant les étudiants de Stanford.
Je ressens une énorme culpabilité. J'en suis au point où je pense que nous avons créé des outils qui détruisent le tissu social. Et nous sommes à un moment où certaines personnes ont vraiment besoin de rompre avec certains de ces outils. Les circuits de récompense courts que nous avons créés, les cœurs, les likes, les pouces en l'air, sont en train de détruire le fonctionnement de la société. Et je n'ai pas de bonne solution. Vous savez, ma solution, c'est que je n'utilise plus ces outils. Et je les interdis aussi à mes enfants.
Ouais, c'est quelque chose qu'avait déjà bien compris Steve Jobs, mort il y a déjà 11 ans. Le fondateur d'Apple assurait que ses enfants n'avaient pas le droit d'utiliser un iPad et que la tablette n'était pas autorisée à la maison parce qu'elle était justement trop dangereuse pour les plus jeunes.
Édifiant, merci Alexis Guillet. Les circuits de récompense courts, c'est les mêmes mécaniques que pour une drogue, que pour le tabac, etc. C'est incroyable. Ça vous fait réagir, hein, j'imagine, Nicolas.
Ça me donne envie de liker, moi, surtout.
Voilà. Vous avez rien compris finalement, ça, Stéphanie. Bon, allez.
La chasse au like.
Allez, disco dans un instant avec vous, Stéphanie Loire. Mais d'abord, Nicolas, le vendredi, c'est un grand classique, un roman culte que vous sortez de votre bibliothèque. Ce matin, vous avez choisi Dracula. Mais pourquoi ?
Parce que je vous ai parlé en début de semaine d'un roman gothique d'aujourd'hui, Le Château des Trompe-l'œil, qui commence un peu comme Dracula. Résultat, j'ai eu Dracula dans la tête toute la semaine, comme une chanson qui ne part pas. Et je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de le reprendre. Et je vous mets ça dans la tête, tiens.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Comte Dracula ?
Je suis Dracula.
Ah, c'était le film de Gary Oldman dans le film de Coppola.
Exactement, film d'ailleurs très très fidèlement adapté du livre de Bram Stoker, le créateur de Dracula, sauf la fin. Donc je vous laisse là-dessus, il faudra le découvrir. Le livre date lui de 1897, vous connaissez l'histoire. Le jeune clerc de notaire, Jonathan Harker, est envoyé en Transylvanie pour rencontrer le comte, mais il s'aperçoit vite qu'il y a quelque chose d'étrange dans le château lorsqu'il voit, par exemple, son hôte se déplacer comme un lézard sur les murs. C'est vrai que ça étonne. Jonathan va finalement réussir à regagner l'Angleterre, mais Dracula ne tardera pas à le rejoindre. Il va donc falloir s'en occuper et lui régler son compte au comte. Et pour en finir avec un vampire, il n'y a pas 36 solutions. Petit rappel, juste au cas où, Stéphanie, il faut choix lui planter un pieu dans le cœur pendant son sommeil ou le placer à la lumière du jour. Il n'aime pas du tout ça.
Oui, le collier d'ail, paraît-il, c'est bidon.
C'est juste pour le repousser un petit peu, ça.
Bon, c'est pas si compliqué, finalement, un peu violent. Mais...
Il faut juste un peu de courage, parce qu'il faut l'approcher quand même, méfiez-vous. Et puis, les vampires sont des séducteurs, c'est ça aussi qui est dangereux. Ils sont d'ailleurs très souvent associés à une forme d'érotisme, ça fait partie du mythe. Encore que, au départ, pour Stoker, le vampire ne ressemblait pas du tout à Brad Pitt ou Tom Cruise, c'était plutôt un monstre, un vrai. Et Jonathan Harker est aidé par un chasseur de vampires, Abraham von Helsing.
Alors on dit que Bram Stoker a été inspiré pour bâtir son Dracula d'un personnage réel, le comte Dracula.
Absolument, l'écrivain s'est inspiré des légendes d'Europe de l'Est d'abord et des rituels anti-vampires qui existaient vraiment, mais aussi d'un personnage bien réel et tout aussi cruel que son homologue de fiction, Vlad Tepes Dracul, un seigneur de guerre de Transylvanie du XVe siècle surnommé Vlad l'empaleur parce qu'il avait cette petite cette manie d'empaler les prisonniers de guerre sur le champ de bataille pour terrifier l'adversaire. Ils buvaient aussi leur sang en regardant ce spectacle, chacun ses vices. Et au passage, Van Helsing aussi est inspiré d'un véritable spécialiste des vampires. Mais dans la vraie vie, c'est un historien, pas un chasseur de monstres.
Ah, vous m'avez aussi donné envie de revoir le film. Dracula, donc, de Bram Stoker, à lire ou relire en plein jour. Tiens, comment sonoriseriez-vous un manoir transylvanien? Peut-être qu'une
peut-être boule... avec du disco.
Voilà, une boule à facettes et un bon disque de Cérone. Pourquoi pas, Stéphane Loire?
Oui, puisque Cérone, l'alchimiste de la fusion des synthétiseurs électroniques et des orchestrations symphoniques dans les années 70, l'orfèvre français de la disco, qui a vendu plus de 30 millions de disques dans le monde, va publier un nouvel album sobrement intitulé Cérone by Cérone. Un album qui célèbre 5 décennies de disco et de musique électro à travers 16 de ses titres historiques, parmi lesquels Super Nature, tube planétaire de Cérone, initialement publié en 1977, au top du hit parade américain en 1978, moult fois samplé et ici remixé par Cérone en version 2022. Qui vient nous rappeler que ce soir, oui, c'est le week-end, qu'on va pouvoir se laisser aller sur le dance floor éventuellement.
Ah, mais oui, Dimitri, mais même dans la voiture le matin. Levé, mais oui, mais je trouve qu'avec toute la vague synthé des années 80 qui revient très à la mode, bah, c'est Ron et ah bon, il fallait le convoquer.
Il n'a pas pris une ride, enfin sa musique, absolument pas en tout cas. Sur ce futur album de Cérone, il y a aussi de l'inédit, notamment un extrait déjà dévoilé, une collaboration avec le producteur et DJ allemand Purple Disco Machine, qui a donné naissance au titre Summer Lovin', alors morceau qui donne envie de sortir son pas de dev du grenier, de partir pieds nus, pourquoi pas, célébrer l'été même s'il est déjà loin.
Cérone by Cérone, ça vous a fait bouger la tête, bouger les pieds.
Vous aussi?
Ah oui, ah, ça a bien marché. Ça sort le 14 octobre prochain, le single Summer Lovin', bah, il est dispo partout sur vos plateformes de streaming. Il y a déjà plus d'un million d'écoutes.
On peut parler d'un succès.
Je crois, exactement. Autre nouveauté, toujours, c'est toujours dans au rayon musique électronique.
Oui, j'ai décidé de vous emmener dans la bulle électro ce matin. Je vous présente le nouveau single du DJ producteur lillois en lice dans la catégorie révélation lors des dernières victoires de la musique, c'est Mid. Alors Mid, c'est un peu l'anti-héros de l'électro, un mec hyper sympa, très talentueux, qui mélange l'humour, la mélancolie dans une musique à gros gros potentiel festif. Son nouveau single, il est issu d'une collaboration avec le duo Picard Brothers, qui sont producteurs pour Diplo, Dua Lipa, Mark Ronson, Beyoncé, Madonna, de belles références. Le titre s'appelle I Made It, comme un message pour nous signifier que la musique électronique, c'est avant tout du fait maison.
Ça ressemble de plus en plus à de la disco, hein, la musique électronique. Là,
bah il y a une racine commune, c'est la même famille, Dimitri.
Voilà, il sera à l'Olympia le 27 septembre, Mid. Merci Stéphanie Loire, bye Stéphanie Loire. C'est
à la semaine prochaine.
Au programme ce week-end, chez vous.
Bah, ce soir, ça part en disco, si vous voulez passer à la maison, soyez bienvenus. Bah,
formidable, merci à tous les deux, Nicolas Carreau, merci. Stéphanie Loire. Bon week-end, 7h53.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, c'est Alban Le Prince pour le journal permanent.
Amis dans la vie, ennemis sur le court, Roger Federer et Rafael Nadal vont disputer ce soir ensemble les doubles de la Laver Cup, probablement le dernier match du joueur suisse avant sa retraite. Faut-il interdire l'accès aux réseaux sociaux? Question hein, aujourd'hui sur Europe 1 pour notre vendredi thématique comme chaque semaine. En tout cas, on y passe beaucoup de temps, en moyenne 2h29 par jour. Plus d'un tiers des utilisateurs s'en servent pour s'informer ou se désinformer. Tout dépend des comptes que l'on suit. Et puis en Ukraine, les bureaux de vote sont ouverts pour les très controversés référendums sur l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie annoncée par Moscou.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
L'édito politique, bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro, vous avez entendu vendredi thématique sur Europe 1 toute la journée, les réseaux sociaux, avec une vision assez noire, assez négative développée par Europe 1 ce matin autour de ces réseaux sociaux, il faut bien le dire. Disons également que c'est aussi une agora politique et on leur prête souvent un pouvoir décisif dans la poussée des populismes. La jonction des réseaux sociaux et des télés en continu, c'est un poison pour la démocratie. Là, je cite Emmanuel Macron, c'était dans le journal du dimanche en 2018.
Oui, Dimitri.
hypocrisie. Les réseaux sociaux, carburant des populismes, on entend souvent ça. Et moi, je crois que je pourrais vous démontrer absolument le contraire. Quand Obama a gagné, on a chanté la force démocratique des médias sociaux. C'était la même chose pendant les printemps arabes en 2010 où Facebook a joué un rôle décisif. Je vous rappelle aussi que le hashtag MeToo doit tout à Twitter. Quant aux nouvelles luttes sociétales, celles qui sont fondées sur la race, sur le genre, sur l'identité que l'on appelle le wokisme, elles sont comme chez elles dans ces réseaux. Enfin, il faut se souvenir que de manière complètement arbitraire, Trump a été interdit sur Twitter. Donc s'il fallait donner une teinte idéologique aux fameux GAFAM, ces boîtes de la Silicon Valley qui détiennent les réseaux sociaux, ce serait plutôt celle du progressisme, voire du politiquement correct, beaucoup plus que celle du populisme. Enfin, disons que dans cette sphère des réseaux sociaux, la partie est plus équitable que dans la sphère médiatique. Mmh. Et au fond, c'est peut-être ça qui dérange.
C'est-à-dire, Vincent ?
Alors, pour comprendre, il faut remonter en 2005, le référendum sur la Constitution européenne en France. L'intégralité des grands médias plaidait pour le oui au référendum. Vous vous souvenez, le non a fait 55%. Ouais. Là, on a assisté à un crack du magistère médiatique, à un effondrement de l'autorité de la parole publique. En fait, à force d'oublier une partie de la population, le système d'information a laissé un espace gigantesque. Et ben, quand sont apparus Facebook ou Twitter, les invisibles, les oubliés, se sont jetés sur cet espace pour le remplir. Au fond, ils ont rééquilibré la balance.
Mais Vincent, et les fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux ?
Alors, je ne nierai pas les fake news, je les déplore même tous les jours et à tout instant, puisqu'on passe nos journées sur ces réseaux. Mais les fake news, ça ne date pas de Twitter, hein. C'est vieux comme le cheval de Troie. Et il arrive même que les médias sociaux aident au travail de la vérité. Je vais vous donner deux exemples. Vous vous souvenez certainement de la nuit du 31 décembre à Cologne en 2016. Mmh. 1200 femmes avaient été agressées. Mais gênée par le profil des agresseurs, il s'agissait de réfugiés, la police allemande avait dit que la soirée s'était très bien passée. C'était une fake news institutionnelle, et c'est grâce au réseau qu'elle a été démasquée. Ouais. Deuxième exemple, le fiasco de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. Vous vous souvenez, la mise en cause des faux billets et des fameux supporters britanniques. Eh bien là, c'était une fake news gouvernementale et c'est d'abord par les réseaux qu'elle a été contredite. Je pourrais vous donner nombre d'autres exemples. Ce qui est frappant, c'est que le plus souvent, c'est sur les sujets d'immigration, d'insécurité physique ou culturelle que les réseaux sociaux dévoilent une réalité que beaucoup, apparemment, ne veulent pas voir.
Donc, comme Ésope disait que la langue était la meilleure et la pire des choses, les réseaux sociaux, c'est à la fois bon et mauvais.
Oui, ça s'appelle la modernité. Depuis Tocqueville, on a compris qu'elle était toujours ambivalente. Alors oui, il y a 1000 questions sur ces plateformes qui prétendent que parce qu'elles seraient de simples tuyaux, elles ne sont responsables de rien devant la loi. Je vais prendre un exemple très concret. À Europe 1, il y a quelqu'un qui, devant la loi, est personnellement responsable si jamais sont tenus sur l'antenne des propos délictueux, qu'ils soient racistes, injurieux ou diffamatoires. Ça s'appelle le responsable de la publication. Sur les plateformes, rien de tout cela. Personne n'est responsable du torrent d'horreur qu'on peut y trouver. On leur demande simplement de s'auto-réguler. Moi, je pense qu'on devrait leur demander d'appliquer la loi. Mais bon, en l'état, et si l'on écarte ce sujet très important, on peut encore trouver des mérites à ces réseaux. J'en trouve un. Ils expriment, même de façon caricaturale, même de façon parcellaire, une part de notre inconscient collectif. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est précieux pour les journalistes, c'est précieux pour les politiques qui sont obligés de prendre en compte ce ressenti et qui, par ces réseaux, peuvent aussi toucher un nouveau public. Puis enfin, c'est quand même par Twitter, c'est par TikTok que nous pouvons suivre la leçon de courage que donnent en ce moment les femmes iraniennes. Alors avec toutes leurs limites et malgré leurs zones d'ombre, l'effet de meute, le lynchage, l'inculture, je dirais quand même que ces réseaux sociaux sont un progrès. La preuve, on le voit en Iran, ceux qui songent à l'interdire sont ceux qui craignent la liberté.
Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers, absolument passionnant. J'espère, chers auditeurs, que vous passez un bon moment autour de notre vendredi thématique sur les réseaux sociaux. On va prolonger la réflexion à 8h40 avec nos deux invités, Philippe Val et l'écrivain Abel Quentin, pour son merveilleux roman
oui.
Le Voyant des Tempes aux éditions de l'Observatoire. Tiens, je signale la une du Figaro, le pouvoir de Poutine sous pression en Russie. Merci Vincent.
7h-9h. Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Nous sommes le vendredi 23 septembre. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À la une ce matin, quand les réseaux sociaux deviennent un poison, c'est le choix d'Europe 1 ce matin pour son vendredi thématique toute la journée. Témoignage choc dans un instant de Léo, 15 ans, harcelé sur les réseaux parce qu'il fait de la danse. Il a même dû quitter son collège. Les référendums d'annexion dans l'est de l'Ukraine, ils ont commencé il y a une petite heure. Depuis hier, Moscou tente de mobiliser les réservistes. Coup de projecteur dans ce journal sur l'armée de Vladimir Poutine. Revue des troupes et des armes signées Nicolas Tonnef. Et puis ce sera inoubliable, sans doute incroyable, dernier match pour Roger Federer qui prend sa retraite, la Laver Cup, en double avec son éternel rival Rafael Nadal, devenu son ami.
Europe 1.
Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est à la fois un lieu d'évasion et une véritable prison. Aujourd'hui, vendredi thématique, comme chaque semaine sur Europe 1, on a choisi de vous parler toute la journée des réseaux sociaux. Nos enfants y passent des heures chaque jour en quête d'inspiration, de modèles, d'humour, d'information. Mais dans cet océan virtuel de messages, de vidéos, de photos, le danger, lui, est bien réel. Léo en sait quelque chose, il a 15 ans, il devrait être en 3e, mais il suit les cours à la maison avec sa mère Leslie, à l'abri du harcèlement scolaire, des moqueries et des menaces de mort qui se prolongeaient sur Internet. Leur témoignage saisissant au micro européen de Johan Tritz.
Léo, en fait, il faut savoir qu'il fait de la danse. C'est parti de là. Sur un groupe WhatsApp qu'il avait avec sa classe, ils ont commencé à l'insulter.
Et c'est là où y a eu les menaces de mort et tous les messages méchants. En fait, moi, je voulais plus entendre parler de ces messages et je voulais plus les voir. Et j'avais honte aussi, du coup, j'avais tout supprimé.
C'est une copine à Léo, en fait, qui s'est dit que ça allait beaucoup trop loin et qui, elle, m'a envoyé en fait les captures d'écran. Et donc là, suite à ça, j'ai pris le téléphone à Léo et c'est là où j'ai eu tous les messages. On arrêtera quand tu seras mort. De toute façon, tu mérites pas de vivre, etc., etc.
En fait, je pensais aussi que c'était de ma faute, que j'étais pas normale et tout.
Il allait au collège quand même avec la peur au ventre. Il a quand même été sous antidépresseur. On a décidé du coup de le déscolariser, de faire l'instruction à la maison.
C'est compliqué pour moi d'aller au collège et de passer devant mon ancien collège et tout. Je peux même pas.
Avec son papa, on a mis une application qui bloque les applications style Instagram, Facebook. Enfin, voilà, là, Léo a créé du coup un compte Instagram sur mon téléphone où j'ai son code, où je peux avoir accès à toutes les communications. Et c'était la condition sine qua non. Normal, hein, c'est de son âge aussi, hein, tous ses copains longs, c'est surveillé plus. Quoi.
Le bouleversant témoignage de Léo et Leslie avec Johan Tritz pour protéger nos enfants et dénoncer le harcèlement. Deux numéros verts, notez-les, le 30-18 et le 30-20.
Bien, sachez qu'en moyenne, on passe 2h29 par jour sur les réseaux sociaux. C'est à peu près le temps du film Le Da Vinci Code.
Voilà. Ça fait long.
Pour y voir un film par jour sans les réseaux. On en parlera tout à l'heure à 8h40 avec Philippe Val et l'écrivain Abel Quentin, dont les réseaux sociaux sont au cœur de son dernier roman, Le Voyant des Temps, publicité, prix de Flore l'année dernière. Il est 8h05, 7 mois après le début de la guerre en Ukraine. La question n'a toujours pas trouvé de réponse. Qu'est-ce qui a décidé Vladimir Poutine à lancer cette invasion ?
Une question posée par nos confrères américains de CNN à Emmanuel Macron lors de son passage à New York. Entretien diffusé hier soir. Écoutez le chef de l'État, il a une analyse personnelle du déclencheur de la guerre.
C'est difficile pour moi de donner l'explication. Quand il a décidé de lancer sa guerre, je pense qu'il a commis une énorme erreur. Aujourd'hui, je pense qu'après la contre-offensive, Vladimir Poutine est beaucoup plus sous pression. À présent, il est clair pour tout le monde que le dirigeant qui a décidé d'entrer en guerre, qui a décidé de l'escalade, c'est le président Poutine. Je n'ai pas d'explication rationnelle. Je pense que c'est un ensemble de ressentiments, une stratégie d'hégémonie dans la région. Et je dirais que c'est une conséquence de son isolement pendant la pandémie. À ce moment-là, il a décidé de rompre complètement le dialogue que nous avions depuis 2014 et de partir en guerre. Je crois que toutes les discussions que nous avons eues ont été utiles.
Discussions qui n'ont pourtant pas freiné les ambitions du maître du Kremlin. C'est aujourd'hui que débutent les référendums d'annexion dans plusieurs régions de l'Est de l'Ukraine. Ils doivent durer jusqu'à mardi. Combien de nouveaux soldats Vladimir Poutine parviendra-t-il à enrôler d'ici là ? Selon Moscou, 10 000 réservistes se sont portés volontaires pour rejoindre l'armée en 24 heures. Plusieurs médias assurent que nombre d'entre eux ont en réalité été emmenés de force sans aucune convocation. Bonjour Nicolas Toneff.
Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes le spécialiste européen de la Russie en direct avec nous. Beaucoup de jeunes Russes fuient leur pays depuis 3 jours pour ne pas rejoindre les rangs de l'armée de Poutine. À quoi ressemble-t-elle justement cette armée, Nicolas ?
Eh bien aujourd'hui, à une sorte d'ensemble qui ne fonctionne pas du tout. Hein. On a affaire à quelques professionnels très bons dans leur domaine, entourés de milliers d'hommes mal formés, avec un commandement problématique. Ça, c'est l'héritage soviétique. Hein. Les officiers, il y a très peu de sous-officiers. Les officiers sont donc sur les lignes de front en Ukraine. Ils s'y font tuer. Et la perte de compétences qui s'ensuit est dramatique sur la longueur, hein, parce que l'organisation, c'est des bataillons tactiques qui associent artillerie, infanterie, anti-aérien. Et tout cela a besoin de chefs ultra compétence, c'est la durée des combats qui révèle ses faiblesses. Et cet assemblage à la va-vite d'unités hein, qui ressemble à du bricolage ne peut rien face aux symptômes de fond qui portent un nom dans la société russe. Hein. C'est la Diedovtchina, le bizutage du nouveau par l'ancien. Cette Diedovtchina fait du terme armée en Russie un synonyme de mort et de terreur auquel il faut échapper à tout prix, d'où la fuite des meilleurs mobilisables et un niveau général des restants extrêmement faible.
Ça, c'est pour l'aspect humain. Sur le plan matériel, est-ce que l'armée russe est en meilleure posture ?
Bien, pas vraiment. c'est aussi la révélation de ce conflit. L'armée russe est restée très soviétique malgré les investissements massifs qui ont été claironnés ces dernières années. Le tank le plus récent, par exemple, le T-14, qui est présenté en défilé sur la place Rouge, n'a été produit qu'à une vingtaine d'exemplaires. Et les usines supposées les fabriquer sont à l'arrêt, faute de composants électroniques. C'est pareil pour les missiles modernes. Il y en a si peu que les Russes ont ressorti des engins déclassifiés il y a 15 ans, avec du coup des bombardements très appréciés. Alors donc, cette armée aligne des chars, des transports de troupes, des canons par milliers, mais ce matériel ancien est très vulnérable et surtout correspond à une époque où les généraux pouvaient sacrifier machines et hommes sans compter, ce qui n'est bien sûr plus possible aujourd'hui.
Merci Nicolas Tonev, spécialiste européen de la Russie.
8h08, faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? La Chine vient de signer une première mondiale. Tenez-vous bien, elle a cloné un loup sauvage.
Une prouesse biologique qui a demandé au moins 3 ans de pratique. Objectif pour les scientifiques, sauver des espèces en voie de disparition. À Pékin, la correspondance de Sébastien Lebelzik pour Europe 1.
À partir d'un simple échantillon de peau, les scientifiques chinois ont réussi à créer une copie conforme en laboratoire de ce loup sauvage d'Arctique. La croissance de ce bébé loup, qui vient de fêter ses 100 jours, est une première mondiale. Maya, c'est son nom, va être suivie pendant plusieurs mois avant de pouvoir retourner dans la nature à une réserve du nord de la Chine. Re Jiangming est vice-président du comité national chinois d'experts sur le clonage des animaux.
Les cellules du loup ont été introduites dans les ovocytes d'un chien de race Beagle et reproduites grâce à la technologie du clonage. C'est une très bonne technologie. Le clonage peut aider à préserver certaines espèces rares et menacées.
Mais en Chine, le clonage est aussi une affaire de gros sous. Le laboratoire Sinogen, qui a réalisé cette première mondiale, pratique depuis 2019 le clonage des animaux domestiques. Pour cela, un simple échantillon de peau ou de poils est nécessaire et aussi un très gros chèque. Il faut compter 35 000 euros pour un chat, 50 000 pour un chien et 80 000 euros pour un cheval afin d'obtenir le clone de son animal favori. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Voilà un bon vendredi thématique en perspective, l'éthique médicale autour du clonage. Allez, pour terminer, c'est une balle qui va briser des millions de cœurs. Une balle jaune, bien sûr. C'est la dernière de Roger Federer ce soir.
Après un ultime match à Londres lors de la Rod Laver Cup, tournoi de prestige qu'il a lui-même fondé il y a 5 ans, la légende suisse du tennis va mettre fin à sa carrière. Et quel point final en double avec son rival et ami de toujours, Rafael Nadal. Véritable cadeau d'adieu pour les fans. Et c'est surtout la plus belle manière de quitter les cours, Jean-François.
Oui, c'est comme si Federer, conscient de ses problèmes physiques récurrents au genou, avait tout planifié. Notre consultant, Cédric Pioline, salue l'artiste suisse une dernière fois.
Tout athlète rêve de contrôler ou de pouvoir être décideur, je dirais, de sa sortie. Il a décidé de le faire là, à Londres. Donc je trouve que c'est bien, c'est mérité. Il aura les hommages qui lui sont dus. Il y aura beaucoup de réactions, bien au-delà du monde du tennis.
Ce soir à Londres, l'émotion étreindra les 20 000 chanceux qui ont réussi à trouver une place. Nadal, Federer, côte à côte, cela repose la question du meilleur joueur de tous les temps. Federer est-il celui-là? Réponse du président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton.
Sur le jeu, sur la technique, sur la pureté, c'est probablement le meilleur joueur et le plus complet. Il a donné envie de jouer au tennis à énormément de gens. Je ne sais pas quel style de jeu va pouvoir remplacer le génie qui était Roger Federer.
L'homme aux 20 victoires en tournoi du Grand Chelem promet de ne pas trop s'éloigner de ce tennis qu'il aura incarné durant près d'un quart de siècle. « Je ne serai pas un fantôme », assure-t-il.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Fanny Marceau pour votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Manon Aubry, députée de la France Insoumise au Parlement européen, est l'invitée d'Europe Matin. Bonjour Manon Aubry.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes députée de la France Insoumise au Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon est-il encore dans le coup, Manon Aubry? Je vous pose cette question suite à la diffusion de cette séquence dans l'émission Quotidien où il dit « Je pèse mes mots tout le temps ». Il assume donc son soutien initial à Adrien Quatennens, du moins que c'est l'interprétation qu'on en fait. Et il a ce geste, cette petite tape sur la joue du journaliste de l'émission. Est-ce que c'est un nouveau faux pas pour le leader des Insoumis?
Je vois bien qu'on essaie de faire une polémique depuis hier. Je pense que ce qui compte véritablement dans la séquence, c'est le fond de la réponse sur la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences sexistes et sexuelles. Et c'est ça l'enjeu. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises.
Vous avez pris vos distances avec ces premiers mots.
Je pense que ces mots n'étaient pas les bons, c'était pas la bonne réaction, que ça a été corrigé et que la position du mouvement politique qui est le mien, auquel j'appartiens, c'est le communiqué de la France Insoumise, qui dit très clairement 3 choses. 1. Il prend acte du retrait nécessaire d'Adrien Quatennens, justement parce que lui-même a déclaré avoir commis des faits de violence conjugale. Il dit une deuxième chose, il rappelle notre attachement et notre engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et troisièmement, il rappelle qu'il y a un comité interne qui existe et qui peut être saisi par n'importe quelle femme. Et ça, moi je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui auraient réagi de cette manière-là. Quand je vois que La République En Marche et Emmanuel Macron lui-même a protégé des personnes et des ministres qui sont accusés de viol. Et il faut aussi une gradation, vous voyez, dans l'analyse des violences faites aux femmes, parce que sinon, en fait, ça dessert la cause qui est la nôtre. Et quand je vois qu'Emmanuel Macron a protégé Damien Abad, qui est accusé de viol, mais pas juste de viol avec utilisation de drogue. Vous voyez, je pense qu'il faut de la mesure dans l'analyse. Et il n'y a pas beaucoup d'organisations politiques comme la nôtre, qui aurait réagi de cette manière-là.
Mais j'ai envie de
vous
dire,
c'est ça que je retiens de cette semaine.
J'ai envie de vous dire, et donc Manon Aubry, et donc, quelles conséquences politiques on tire de tout cela? J'ai entendu, et je ne suis pas le seul, votre collègue Clémentine Autain se demander publiquement s'il ne fallait pas externaliser les cellules internes des partis sur ces deux traitements de fameuses violences sexuelles et sexistes. Est-ce qu'une gifle, c'est une violence sexuelle et sexiste sur un plan pénal? Est-ce qu'il faut transmettre le dossier à la justice? Et puis très concrètement, la rentrée parlementaire, c'est le 3 octobre, c'est la semaine prochaine. Est-ce que Adrien Quatennens sera là, ou est-ce que vous allez lui demander de ne pas venir? Enfin, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, hein, je précise.
Il y a beaucoup de questions vous avez posées. D'abord, il y a une vraie question sur comment on peut faire mieux dans le suivi, le traitement, l'accompagnement et la lutte contre les violences faites aux femmes au sein même de nos organisations politiques qui n'échappent pas au patriarcat. Je le dis, la différence, c'est que nous,
Adrien
on Quatennens, réagit.
C'est le patriarcat.
Il fait partie d'un modèle de société et qui produit ce type de comportement. Donc oui, c'est le produit, in fine, du patriarcat qui participe d'une forme de continuum de violence. Et pour ça qu'il faut agir, et je pense que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux, par exemple, en réfléchissant en effet à un accompagnement extérieur qui renforce la confiance que l'on peut avoir dans la saisine du comité pour pas qu'il y ait un rapport de domination politique, pour que d'éventuelles victimes se sentent à l'aise.
Mais dans un comité qui est constitué exclusivement de femmes, qui est saisi par des femmes contre des hommes, il n'y a pas un rapport de domination politique également, Manon Aubry?
Ce qui peut être possible, par exemple, c'est que
parce
ce
que
soit...
Quand on dit « on vous croit », on part du principe que madame a forcément raison face à un monsieur menteur.
Non, justement, dans les choses sur lesquelles on doit travailler, c'est sur la manière dont on fait du contradictoire. Mais il y a plein de questions qui se posent. Dans l'affaire d'Adrien Quatennens, en l'occurrence, le comité n'a pas été saisi et c'est directement une main courante qui a donné lieu à une information judiciaire. Donc, pour répondre à votre question, il y a une information judiciaire qui est ouverte, il y aura peut-être un procès, en tout cas.
De manière automatique, c'est une volonté du ministère de la Justice.
C'est dans les mains de la justice. Alors, je pense qu'il y a énormément de travail à faire aussi pour améliorer le traitement judiciaire des affaires de violence. Vous savez comme moi qu'une grande partie des plaintes pour viol, des plaintes pour violences sexistes et sexuelles sont très mal traitées par la justice. Quand on ne demande pas à une femme victime de viol, quand elle vient au commissariat, est-ce que tu as joui? On a eu énormément de témoignages qui vont dans ce sens-là. Donc pour revenir à votre question,
j'entends bien. On doit améliorer. D'ailleurs, ces cellules internes existent parce que aussi, dans beaucoup de parties, on dit oui, mais le traitement judiciaire n'est pas satisfaisant.
Exactement.
Policier.
Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord avec l'opération que fait à l'heure actuelle le gouvernement qui instrumentalise cette histoire, et notamment la ministre du droit des femmes, Isabelle Rome, qui se sert de cette histoire pour s'attaquer au comité interne qui existe dans les partis et qui existe dans mon mouvement politique, qui fait partie des rares qui en ont, justement pour accompagner la parole des femmes.
Bon, et cette bonne guerre,
juste permettez-moi
manière,
de finir là-dessus. Moi, j'ai envie de dire, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut y travailler. Je pense qu'on peut y travailler avec d'autres au sein de la NUP. Vous avez vu comme moi que nos collègues écologistes font face à des difficultés similaires. Et la différence que nous avons en commun avec les écologistes et la France insoumise et au sein de la NUP, c'est parce que nous voulons faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité, que nous nous en parlons du sujet. Alors je le dis à votre antenne, je pense que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, nous pourrions travailler ensemble à améliorer nos cadres internes, répondre à certaines questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse évidente. Comment on gère la gradation des sanctions? Parce qu'une gifle n'est pas égale à un viol, n'est pas égale à du harcèlement moral, qui n'est pas égale à du harcèlement sexuel.
Ça,
et donc, il faut pouvoir
France
graduer.
Ça, c'est la ligne de France Insoumise depuis le cas Coquerel, où, effectivement, cette idée d'une gradation des violences, des gestes, devait être prise en compte. Mais vous dites nos partenaires écologistes. Alors, vous ne vous mêlez pas du cas Bayou, eux se mêlent du cas Quatennens. Je vous cite votre collègue écologiste de la NUPES, Raphaël Rémy-Leleu, qui dit que c'est très clair, la ligne est claire, pas d'agresseur en politique, Adrien Quatennens ne peut pas rester député. Et il y a le cas, donc, Julien Bayou, dont plusieurs membres d'Europe Écologie Les Verts demandent sa mise à l'écart, sa démission. Alors voilà, ça pose de nombreuses questions, parce que lui, on parle de violences psychologiques. Mais alors, ça commence où, les violences sexuelles et sexistes? Qu'est-ce que c'est, les violences psychologiques? Est-ce qu'une femme ne peut pas, elle aussi, se rendre coupable de violences psychologiques? Toutes ces questions sont complexes, Manon Aubry.
Et c'est protégé dans le code du travail, quand c'est sur un lieu du travail. C'est protégé par le code pénal.
Ah, mais attendez,
et
c'est
tout
pas
ça,
harcèlement moral, c'est hein. On parle de violences psychologiques. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein.
Mais c'est codifié dans le droit. Donc, rassurez-vous, il y a des gens qui sont là pour l'analyser. Il y a des gens qui sont là d'abord aussi pour
accompagner. Le harcèlement moral, c'est codifié, mais
oui,
pas les violences psychologiques.
Le harcèlement moral, c'est codifié. Donc, des violences psychologiques peuvent être une conséquence du harcèlement moral. Tout ça, c'est codifié. Et l'enjeu derrière, c'est que dans quelle mesure on peut accompagner les victimes. Et moi, j'ai envie de dire aux millions de femmes qui nous écoutent que... N'ayez pas peur de vous engager dans des mouvements politiques. On sera là pour vous protéger, on sera là pour vous accompagner.
Vous avez leur dit, craignez, ayez peur, si vous vous engagez, attention.
Mais vous savez, qui aujourd'hui est victime de viol en France? Est-ce que ce sont ces messieurs qui sont victimes de viol en France? Moi, j'en ai marre qu'on mette tout sur le même plan et qu'on se dise, non, mais aujourd'hui dans notre société, des hommes peuvent être victimes de violences. Évidemment,
c'est pas ça que je voulais dire. C'est que vous avez raison, les violences sont inacceptables. Mais dans le cas de Julien Bayou, par exemple,
et
la mort sociale et politique qui l'attend.
Et ne pensez-vous pas que
est-ce que c'est pas
de nature
à rebuter des hommes?
Ne pensez-vous pas que les violences, en général, quand il s'agit de violences sexistes et sexuelles, tiennent lieu d'un rapport de domination dans notre société? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence possible dans l'autre sens. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des cadres pour protéger. Et la difficulté qu'on a dans le cas de Julien Bayou et dans plein d'autres cas, c'est que le temps médiatique ne correspond pas au temps de l'enquête de ces comités. Et donc, j'entends que vous avez besoin de réponses. Moi, je ne connais pas le cas Julien Bayou, je ne peux pas vous le donner. Par contre, j'ai confiance dans nos amis écologistes, dans la mise en place de ces comités pour écouter et pour avoir une gradation des sanctions. Donc, non, il ne faudra peut-être pas clouer au pilori Julien Bayou. Par contre, je le redis, c'est intolérable que le gouvernement de la République En Marche ait toléré des ministres qui soient accusés de viol au sein même de leur gouvernement.
Vous l'avez dit.
Non, je le redis. Permettez-moi de le dire quand même. Il y a d'autres députés qui siègent sur les bancs de la République En Marche ou qui ont été protégés par la République En Marche ou qui ont été protégés, souvenez-vous, de Stanislas Guérini qui disait d'un candidat de la République En Marche qui avait été condamné pour violence conjugale que c'est un honnête homme. Vous voyez, ça à gauche, jamais nous ne le ferions parce que justement nous faisons de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité.
Mais je vous repose la question autour de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il est encore le bon chef? Parce que l'air de rien, ces débats-là, pardonnez-moi, les Français sont interrogés par l'IFOP hier à propos de Jean-Luc Mélenchon. Il est perçu comme dépassé par 60% des personnes interrogées.
Je vois bien là aussi que vous essayez de vous en servir. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a fait 22% à l'élection présidentielle. Ouais. C'est celui qui, sur les 10 dernières années de vie politique, a... Je pense refaire vivre un espoir chez des millions de gens. Oui. Et on va peut-être en parler des millions de gens qui, là, cet hiver,
mais là,
se
sur
disent
ce sujet-là, il
est des millions
est-ce qu'il
de
est
gens.
Pas un peu le Jean-Marie
mais je reviens
de
à notre cœur du sujet.
De l'extrême gauche.
Je comprends
celui
que c'est,
qui dérange.
Je comprends
qui...
que c'est intéressant de parler de leadership politique. Mais moi, ce que j'ai envie de me poser comme question, c'est quel est le meilleur outil politique et quelles sont les meilleures personnes justement pour répondre aux problématiques des Français. Et donc là, l'enjeu, c'est comment des millions de gens vont passer l'hiver pour payer leurs factures d'énergie, faire face à l'inflation qui est grandissante, aux inégalités. Et ça, pour moi, c'est une question à laquelle j'ai envie de répondre de manière immédiate.
Très concrètement, vous siégez au Parlement européen, vous vous êtes accroché la semaine dernière avec Ursula von der Leyen lors de son discours sur l'état de l'Union, vous lui brandissez des factures d'énergie, elle vous répond de les envoyer à Moscou. Alors, il y a peut-être le reproche que vous faites à Ursula von der Leyen, mais plus concrètement, ce qui intéresse les Français, ces factures d'énergie, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, selon la France insoumise, pour passer l'hiver avec des factures qui s'enflamment là, depuis ces quelques semaines?
D'abord, une remarque sur la présidente de la Commission européenne, qui est quand même la principale dirigeante politique européenne et qui manifeste tout son mépris en disant aux gens qui vont galérer à payer leurs factures, envoyez-les à Vladimir Poutine, comme si en fait, elle n'avait pas des réponses politiques à apporter. Et oui, des réponses politiques, nous en avons. Parce que c'est pas vrai de dire que c'est uniquement la faute de la guerre en Ukraine. C'est la conséquence de politiques et de choix économiques. Sur les prix de l'énergie, il y a ce qu'on appelle le marché de l'énergie européen qui fait que toutes les énergies sont indexées les unes par par rapport aux autres et donc à l'énergie la plus chère. Mmh. En ce moment, tout le monde le sait, c'est le gaz qui est extrêmement cher.
Alors,
et donc toutes les autres énergies,
les renouvelables, etc. C'est ça que les gens aujourd'hui veulent savoir.
Solutions concrètes, découpler les énergies les unes des autres pour faire en sorte que des énergies qui sont produites de manière moins chère puissent être acheté de manière moins chère par les consommateurs.
Première comme les Espagnols, première ils ont décidé solution. De caper le prix du gaz.
Ils l'ont fait, et ils l'ont fait bien avant l'Union européenne, y compris en acceptant de dire, eh bien nous, on sort de ces règles européennes. Et vous voyez que tout ce que nous racontons sur la nécessité du rapport de force avec l'Union européenne, l'Espagne et le Portugal, on en fait la démonstration. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Deuxième chose, on doit pouvoir dire concrètement, en tant qu'État membre, eh bien, nous fixons un prix maximum, nous bloquons les prix en quelque sorte, et nous mettons à contribution les entreprises qui se sont le plus enrichies.
Ah, pensez ce que vous appelez les super profits.
Ce qu'on appelle.
Mais c'est quoi un super profit?
Un super profit, vous savez, les.
C'est
j'aime
comme,
bien en anglais.
Psychologiques,
alors
hein,
au Parlement européen, on parle beaucoup anglais, on parle de windfall profit, et si on traduit, en fait, c'est les profits qui viennent du ciel. C'est les profits qui viennent de nulle part.
Oui.
C'est Total qui a fait 16 milliards d'euros de
non,
bénéfices.
Non, ils ne viennent pas nulle part, c'est juste la situation.
16
font
milliards
que...
d'euros de bénéfices, qui est un record dans toute l'histoire du CAC 40, le tout sur vous et moi quand on allait faire notre plein d'essence et qu'on payait une fortune. Tout le monde a remarqué que pendant un long moment, il y a eu un plein d'essence à plus de 100 euros. Et bien ça, c'est allé directement dans les poches de Total,
il faut donc
de son PDG qui s'est augmenté de 50% et des actionnaires qui ont vu leurs dividendes augmenter. Donc oui, il faut les mettre à contribution. C'est pour ça que nous lançons à la fois un référendum d'initiative partagée au sein de la NUP pour une taxation sur les super-profits et que j'invite tout le monde à aller signer et à aller signer la pétition « Taxe super-profits » et qu'on lance de grandes mobilisations. C'est le cas avec la manifestation syndicale du 29 septembre la semaine prochaine et le 16 octobre, une grande manifestation contre la vie chère parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés. On doit dire à Emmanuel Macron que à la fois ces réformes des retraites pour nous faire travailler plus longtemps, nous n'en voulons pas, mais nous voulons des réponses immédiates avec un blocage des prix et une taxation des super profits plutôt qu'une mise à contribution de ceux qui galèrent.
Sur les retraites, Emmanuel Macron semble finalement se dire que l'amendement, la voie d'amendement n'est peut-être pas la plus raisonnable dans le climat, dans le contexte actuel. Est-ce que malgré tout, vous ne pensez pas, que ce soit à la NUP ou à la France Insoumise, Manon Aubry, il y a quand même un sujet de financement du système des retraites. Il n'y a pas de réforme des retraites qui est grâce aux yeux de la France Insoumise aujourd'hui, Manon Aubry? Le système pour vous est parfait?
Non, il n'est pas parfait. Mais d'abord, sur la nécessité de faire des économies, c'est pas vrai. C'est pas ce que dit le Conseil d'orientation des retraites. Notre système est en excédent en 2022 de 3,2 milliards d'euros.
Et le comité de suivi des retraites dit comme le corps que dans les 20 prochaines années, il va y quand même avoir un sujet de déficit.
C'est pas vrai. Dans les 25 prochaines années, on sera avec 0,4% de PIB seulement en termes de coûts. Donc non, c'est pas vrai qu'il faut une réforme immédiate. Par contre, qu'il faut un système plus juste de retraite. Oui, mais nous le disons, et c'était l'horizon que nous avions tracé pendant l'élection présidentielle, on ne doit pas perdre sa vie à la gagner. Il y a énormément de gens, 60% des gens qui arrivent à 62 ans, en réalité, qui ne sont déjà plus en situation d'emploi. Des gens qui meurent avant même d'arriver à la retraite. Donc l'horizon que nous traçons, c'est la retraite à 60 ans. Et oui, c'est possible de le financer. Tiens, puisqu'on parlait de l'égalité femmes-hommes, si on commençait par payer les femmes comme les hommes, eh bien ce serait un des outils de financement. Voilà l'horizon que l'on trace, finalement, le grand fil de l'émancipation, de la réduction du temps de travail, qui est aussi créatrice d'emplois. Et dans le moment, je pense que ce serait pas mal.
Merci Manon Aubry.
Merci à vous.
Députée de la France Insoumise au Parlement européen. Merci d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. 8h29, dans un instant, la revue de presse hebdomadaire des idées, signée Eugénie Bastier, et le regard sur l'actualité de Catherine Ness et la signature Europe 1.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h31, l'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent Christophe Lamarre.
Ouverture des référendums d'annexion en Ukraine, les bureaux de vote des 4 régions séparatistes pro-russes ou occupées en partie par Moscou ont ouvert à 6h ce matin. Le oui ne fait pratiquement aucun doute et pourrait déboucher sur leur rattachement à la Russie. Le pouvoir iranien tente de mater la colère qui s'exprime dans la rue. La répression des manifestations a fait au moins 17 morts selon les chiffres fournis par la télévision d'État. Le président Ibrahim Raisi promet une enquête sur les circonstances du décès de Masha, jeune femme arrêtée par la police religieuse pour un voile mal ajusté. Le paquet de cigarettes va-t-il franchir la barre des 11 euros? Selon les Échos, le gouvernement est tenté d'augmenter la fiscalité sur le tabac. La hausse serait en moyenne de 70 centimes par paquet. Vers une hausse de 4,9% au 1er novembre pour la retraite complémentaire des cadres et salariés du privé. Conséquence des bons comptes de l'Argirc-Arco, le régime complémentaire devrait terminer l'année dans le vert. L'excédent pourrait atteindre près de 4 milliards d'euros. Faut-il fermer les réseaux sociaux? Les vendredis thématiques d'Europe 1, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aujourd'hui à cette question. questions, interviews, débats et reportages tout au long de cette journée. Les adieux au tennis professionnel de Roger Federer. Le Suisse jouera en double ce soir avec Rafael Nadal. Il a choisi Londres et la Lever Cup pour disputer son dernier match à haut niveau. Ce sera devant une salle comble. La France s'impose 2-0 face à l'Autriche en Ligue des Nations de football. But signé Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Prochain match dimanche à Copenhague contre le Danemark. Enfin, le mondial de basket. Après leur succès contre l'Australie hier, les Françaises reviennent sur le parquet ce matin à 10h et ce sera face au Canada.
Merci Christophe Lamarre. Le temps.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Anissa Dadi par Béléno, c'est un plafond gris qui est en train de nous tomber sur la tête. Là.
Oui, surtout pour les Bretons, les Normands. Dès que vous habitez dans le Nord-Ouest, hein, vous allez avoir effectivement ce plafond gris au-dessus de la tête avec des averses tout au long de la journée. Le temps change. Hier, on a eu la plus belle journée de la semaine. Là, c'est en train d'évoluer avec une perturbation pluvieuse qui arrive par la Manche. Donc, c'est vrai que sur le Nord-Ouest, c'est très automnal. Ailleurs, ça change doucement. En fait, il y a des nuages quasiment partout, sauf sur la façade est, entre l'Alsace et la Corse, où là, ça reste très ensoleillé. C'est encore une très belle journée. Dans l'après-midi, ça évolue surtout dans le sud. Sur les Pyrénées, c'est l'arrivée de la pluie cet après-midi du côté des Pyrénées-Atlantiques. Et puis, également sur le golfe du Lion. Côté température, on aura 18 degrés à Brest, 21 à Vannes, Metz et Belfort, 22 degrés pour Paris. Ça sera douci grâce aux nuages. 24 à Clermont-Ferrand, 26 pour Ajaccio et jusqu'à 28 degrés à Montauban.
Merci Anissa, 8h34 sur Europe 1.
7h, 9h,
Europe Matin.
Un jour, une signature sur Europe 1 et le vendredi, c'est évidemment Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Le président de la République devrait finalement renoncer à passer en force sur la réforme des retraites. Pas de 49-3, pas d'amendement non plus dans le projet de loi de financement de la Sécu. Un vrai débat, en revanche, pourrait avoir lieu au printemps.
Oui, d'ailleurs, le fait même d'y avoir songé alors qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée et qu'il s'est fait le champ de la gouvernance autrement nous entraîne dans les labyrinthes du raisonnement présidentiel, mais ça c'est un autre sujet. En tous les cas, elle traduit ses craintes. La retraite entre 64 et 67 ans, c'est une nécessité. Nos voisins ont réglé le problème, pas nous, alors. Mais on craint le pire au printemps.
Alors, il y a une jurisprudence en matière de retraite, c'est la réforme de 2010.
Ah oui, c'était le grand chantier de Nicolas Sarkozy qui confie la réforme à Éric Woerth, le ministre du Budget. Mais les syndicats ont dit, toucher aux 60 ans, c'est pas négociable. Et cette fois, le leader de la CFDT, François Chérec, colle à la CGT. Ce qui est très nouveau. En 2003, lorsque Fillon avait fait voter l'alignement des cotisations du public sur le privé, les trains avaient été bloqués pendant 13 jours. Chérec était parti négocier à Matignon une disposition qui permettait à ceux qui avaient travaillé à l'âge de 15 ans de partir à 55. Ils pensaient en être gratifiés, mais pas du tout. Des milliers d'adhérents avaient quitté le syndicat pour rejoindre la CGT au Sud. La gauche le traitait de social traître. Et oui. Au congrès de Dijon, François Hollande, premier secrétaire, accueillait pour la première fois Bernard Thibault, patron de la CGT, en héros.
Mais en 2010, les esprits avaient eu le temps d'évoluer. Hein.
Oui, quand en janvier, sur LCI, Martine Aubry déclarait que pour les retraites, on pourrait songer à 62 ans, ben on l'a cru, mais devant la grogne militante, elle avait dû s'excuser. Non, on ne touchera pas aux 60 ans. Alors, Éric Woerth se met au travail, reçoit tous les syndicats, les chefs de parti. En juin, Nicolas Sarkozy a tranché. L'âge légal du départ à la retraite passera à 62 ans en 2018. Et quelques jours plus tard, 70 cortèges défilaient. Il y avait 1 million de personnes selon la CGT, 395 000 selon la police. Il y avait du monde.
Ouais, il ne fait pas bon être le ministre qui défend la loi. Hein.
Ah, mais pas du tout. Là. Éric Woerth est un ministre respecté. Certains le voyaient à Matignon. Mais 2 heures avant la présentation publique de sa réforme, Mediapart lui envoyait un questionnaire sur les activités de son épouse dans la structure de gestion de la milliardaire Liliane Bettencourt, laquelle, au titre du bouclier fiscal voulu par Nicolas Sarkozy, avait touché un chèque de 30 millions, un cadeau jugé immoral. Mediapart l'a accusé d'avoir signé le chèque. Il sera prouvé qu'il n'est pas intervenu dans le dossier, qu'il n'a rien signé. Mais les attaques vont se multiplier, dénonciations, approximations, dénigrements, des tombereaux de malveillance. Il sera branché de tout cela. Mais cet homme a vécu un calvaire et on peut dire que Woerth, c'était un destin brisé par la calomnie.
Alors le débat s'ouvre le 7 septembre à l'Assemblée nationale, 7 septembre 2010 donc toujours. 2 jours plus tôt, nouvelle grande manif, on a vu à Paris deux jeunes couples venir avec des poussettes, la fête des générations, on disait.
Oui, on crie Woerth, démission, mieux, le syndicat FO a demandé aux lycéens de participer au mouvement. Ben, bonne occasion d'aller sécher les cours et on entend des hordes de gamins hurler « touche pas à la retraite » 60 ans sans voir les pauvres chats, que ce sont eux qui paieront pour les adultes qui ne veulent pas travailler plus longtemps.
C'est vrai, ça on l'aura expliqué après. La réforme est finalement votée par l'Assemblée nationale.
Oui, le 4 14 septembre, Éric Woerth n'a pas bougé de son banc de 15h jusqu'au lendemain 9h30. La gauche a épuisé son temps de parole, 50h. On doit passer aux explications de vote. Il y a 167 inscrits, ce qui signifie 14 heures de séance supplémentaire. Alors là, le président Accoyer lève la séance, ça suffit. La droite l'acclame, les socialistes se ruent vers lui, manquant le faire tomber. À 15h, c'est le vote. Les socialistes arborent leur écharpe tricolore. Notre République est abîmée, clame Hérault. Une écrasante majorité adopte le texte. Évidemment, la gauche, le PC, les Verts ont voté contre. Et avec eux, François Bayrou, tiens donc.
Et on passe au Sénat et la mobilisation continue.
Et oui, encore de grandes manifs dans toute la France. 3 millions de gens, selon la syndicat. Et la CGT, Chimie Pétrole, qui bloque les raffineries pendant 18 jours. Son leader, Charles Foulard, vient le soir sur les 20h, dit ce qu'il veut, c'est virer Sarko. Alors que les salariés de Total bénéficient d'un régime de retraite en or massif. Ils partent à 55 ans, mais bientôt il n'y a plus d'essence. Dans les distributeurs, cette fois c'est trop, les Français râlent. Le 26 octobre, la loi est votée. Le gouvernement n'a pas reculé. Voilà, Martine Aubry exige néanmoins que la loi ne soit pas promulguée. Eh bien, elle le sera. Elle l'est.
Ah voilà, il faut toujours relire le grand livre de l'histoire politique récente et vous faites toujours ça à merveille,
oui,
Catherine.
Mais pour comprendre que c'est pas.
Oui. Est-ce
le printemps
que là...
sera lourd.
Voilà, est-ce que c'est le scénario que l'on connaîtra dans quelques mois? Merci beaucoup, Catherine. On vous retrouve tous les vendredis. C'est l'heure de notre revue de presse hebdomadaire des idées sur Europe 1 avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie.
Bonjour Dimitri.
Je rappelle le principe, c'est-à-dire une idée, un sujet dans l'air du temps et vous passez en revue la presse dans le monde entier pour voir ce que l'on dit. Alors cette semaine, vous avez choisi les Iraniennes sans voile alors que l'Occident lui est en pantoufle. C'est la surenchère de Poutine qui a décrété la mobilisation de conscrits pour faire face à son échec en Ukraine qui mobilise l'attention des commentateurs du monde entier. Ça, c'est le paradoxe.
Oui, Poutine est en difficulté, résume la chercheuse Marlène Laruelle dans une tribune au New York Times. C'est une spécialiste du nationalisme russe et elle analyse un peu ce tournant dans la guerre qu'est cette mobilisation partielle décrétée par Poutine. On a tendance, dit-elle, à croire trop que la Russie est un monolithe, à se focaliser sur la seule personnalité de Poutine, comme s'il n'y avait que lui finalement qui voulait cette guerre en Russie. Or, la réalité est plus complexe. Il y a des groupes, évidemment, de plus en plus nombreux, on le voit, qui manifestent, qui protestent contre la folie de cette invasion. Mais il y a aussi un autre groupe, disons à la droite de Poutine, qui, enhardi par l'échec du Kremlin à remporter la victoire en Ukraine, exerce de plus en plus de pression sur le régime. Ce groupe, elle l'appelle le Parti de la guerre. Il est composé d'agences de sécurité, du ministère de la Défense russe, de personnalités médiatiques et politiques au franc-parler. Il englobe finalement l'ensemble de cet écosystème nationaliste radical. Ce sont ces faucons russes, comme elle les appelle, qui réclament depuis des mois la mobilisation générale en Ukraine. L'assassinat, vous savez, cet été de Daria Dougine, la fille de l'idéologue nationaliste russe Alexandre Dougine, leur a fourni finalement un prétexte supplémentaire et Poutine leur a cédé en décrétant cette mobilisation partielle.
Voilà, c'est ce même parti de la guerre qui suggérait pendant les funérailles d'Elisabeth II de larguer une arme atomique sur Londres à ce moment-là. Voilà. Est-ce que cette mobilisation partielle décrétée il y a deux jours par Vladimir Poutine, ça peut mobiliser un parti des pacifistes?
Écoutez, dans le Financial Times, le politologue bulgare Ivan Krastev souligne, lui, que la mobilisation décrétée pourrait en tout cas mettre à nu l'égoïsme des élites russes et soulever peut-être une rébellion dans le pays à l'égard de ces élites. Les fils des proches de Poutine, les enfants des oligarques pourraient fuir le pays ou finir à l'hôpital pour éviter la conscription. La corruption, dit-il, risque de paralyser le système. Et même s'il est peu probable, dit-il, que les gens se révoltent, au moins dans un premier temps, ils feront ce que les Russes font de mieux, traîner des pieds. Face à eux, les soldats ukrainiens se battent pour défendre leurs femmes, leurs enfants, leurs terres. Or, on le sait depuis la bataille des Thermopyles, on se bat toujours mieux pour la liberté que pour la conquête.
Il n'y a pas qu'en Ukraine qu'on se bat pour la liberté, Eugénie. En Iran aussi, des jeunes femmes protestent contre l'obligation qui leur est faite de porter le voile.
Oui, et il faut lire le cri d'admiration et de colère de Janet Bougrab dans le Figaro pour ces femmes iraniennes qui, à la suite de la mort de la jeune Mahsa Amini, protestent aux quatre coins du pays contre la police des mœurs. L'ancienne secrétaire d'État fustige le silence, voire même la complicité des féministes occidentales envers cet objet d'oppression qu'est le voile. Alors qu'à Téhéran, on risque sa vie en brûlant son voile, à Grenoble, on organise le port du burkini dans les piscines. Je la cite « Quand je vois ces grandes marques occidentales de vêtements se lancer à coups de renforts publicitaires sur le créneau de la mode pudique, j'en ai la nausée. car elles sont complices de facto de ce qui se passe là-bas en banalisant ce qui est le symbole de l'enfermement du corps de la femme.
Voilà, fin de citation. Et pendant que les femmes iraniennes retirent leur voile, nous, nous mettons nos pantoufles.
Oui, le sacre des pantoufles. C'est le titre du dernier essai du philosophe Pascal Bruckner, où il revient sur, vous savez, cette propension occidentale à se replier douillettement dans, sur la sphère privée pour échapper au tragique du monde. Vous savez, depuis le confinement, grâce aux nouvelles technologies, bientôt le métavers, on pourra rester chez soi et finalement vivre depuis chez soi. Nous sommes de plus en plus tentés par ce qu'on appelle le cocooning. Nous sommes averses à tout risque et nous sommes obsédés par le confort à tout prix. Je cite Pascal Bruckner, « L'Occident est devenu plus soucieux de sa sécurité que de sa liberté. L'inquiétude nous pousse à nous réfugier dans le chez-soi, seul lieu de tranquillité », dit-il dans Le Point. Le plus grand parti politique est le parti de la pantoufle. Celui qui réclame « Cédez à Poutine, rendez-nous le pétrole, l'électricité, que surtout rien ne change ». La nidification est le moyen le plus simple d'échapper aux tourments de l'histoire et à la méchanceté des hommes.
Waouh, quelle phrase!
Oui, une question me vient en le lisant. Quand l'histoire frappera à nouveau à notre porte, aurons-nous la détermination des Ukrainiens et le courage des Iraniennes?
Va falloir lâcher son smartphone et arrêter de scroller sur les réseaux sociaux. C'est le thème de notre matinale. Merci beaucoup, Eugénie Bastier, pour votre regard. Merci beaucoup, Catherine Ney. Dans un instant, alors, ce n'est pas notre club de la presse Europe 1. On poursuit notre réflexion en l'étant sur les, autour de la question des réseaux sociaux. Philippe Val et l'écrivain Abel Quentin, auteur de, du Voyant des Tempes, livre Prix de Flore l'année dernière, sont avec nous dans un instant.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h46, vendredi thématique sur Europe 1. On parle des réseaux sociaux, si les heures que l'on y passe comptaient pour la retraite, sûr que l'on pourrait envisager de partir à 60 ans, peut-être même plutôt, peut-être même plutôt encore. Alors par exemple, votre serviteur, j'ai regardé ce matin, 16 heures de téléphone cette semaine, 6 heures essentiellement sur Twitter, hein, plus du tiers à traquer l'info, les réactions, les commentaires intelligents et stupides, le mensonge, malheureusement aussi, a plus de succès que la vérité sur les réseaux sociaux, il faut bien le dire, ça c'est prouvé. Faut-il les fermer? Question un peu plus que rhétorique ce matin. Bonjour Philippe Val.
Bonjour Dimitri.
Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous venez avec nous parce que dans votre dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, votre dernier ouvrage, c'est l'un des plus longs articles, réseaux sociaux. C'est un sujet qui vous préoccupe longuement, de manière très importante. Je ferai une des citations, je citerai tout à l'heure votre dictionnaire parce qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressé. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir Abel Quentin. Il est écrivain, c'est lui qui signait Le Voyant des Tempes aux éditions de l'Observatoire, Prix de Flore l'année dernière. Bonjour Abel Quentin.
Bonjour Dimitri.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise, vous faites assez peu d'émissions, notamment les émissions littéraires, c'est pas trop votre tasse de thé, j'ai l'impression.
Ah si. Hein, ah non, oui, c'est justement les émissions non littéraires dans
que vous fuyez. Voilà. Alors donc voilà, exception faite pour Europe 1 ce matin et je vous en remercie. C'est parce que ce sujet des réseaux sociaux vous préoccupe beaucoup, il est au cœur de votre ouvrage. Pas seulement, c'est un sujet, alors on a dit que c'est un roman anti-woke parce que c'est l'histoire d'un homme qui a la soixantaine passée, qui est un peu dépassé par la nouvelle gauche. Lui, il a été militant des SOS Racisme dans les années 80, il a du mal à piger ce qui se passe aujourd'hui. Il écrit, je résume très sommairement, il écrit un livre autour d'un poète américain méconnu qui a vécu du côté des Tempes. Et puis, lorsqu'il présente son ouvrage, un militant antiraciste vient le voir et dit « Mais vous avez oublié de dire qu'il était noir. C'est de l'appropriation culturelle. » Et à ce moment-là, va se mettre en place un buzz, un bad buzz autour de cet homme sur les réseaux sociaux. Ça va prendre des proportions absolument gigantesques. Quel est le message que vous voulez faire passer sur les réseaux sociaux, Abel Quentin, à travers ce Voyant des Tempes?
Ouais, ils n'en sortent pas forcément grandi, c'est sûr, dans mon livre, parce que mon narrateur, Jean Roscoff, il a plusieurs caractéristiques. C'est, comme vous l'aviez dit, un ancien des années SOS Racisme, mais c'est aussi, il le dit lui-même, c'est un dinosaure de l'ère prénumérique, ou un fossile de l'ère prénumérique. Et donc, il se retrouve pris dans le vortex d'une polémique numérique, alors qu'il ne maîtrise pas du tout ce langage-là, ce temps-là ultra rapide, celui de l'immédiateté, celui de la réponse immédiate, pas toujours réfléchie. Et donc, c'est un monde très cruel que celui des réseaux sociaux. C'est un monde où il est très difficile de peut-être...
Est-ce qu'on peut décrire peut-être la mécanique qui se met en place, c'est-à-dire d'abord une indignation qui se répand comme une traînée de poudre, et puis à ce moment-là un contre-feu de gens qui découvrent la situation? Il y a des proches, ouais, qui tentent de venir au secours de Jean Roscoff. Aïe, 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 parfois c'est catastrophique parce que ces tentatives de soutien s'avèrent finalement desservir, ouais, Jean Roscoff. On retrouve un petit peu tout ce qui se passe. Par exemple, j'ai beaucoup pensé à l'affaire Mila en lisant votre livre, d'une certaine manière. Cette jeune femme qui a eu le malheur de dire des gros mots à propos de l'islam et qui, dont la vie est complètement mise sans dessus-dessous depuis quelques années maintenant.
Oui, il y avait aussi, j'avais aussi au moment de l'écriture en tête une affaire d'une journaliste dont je veux dire que j'ai oublié son nom, mais qui, dont le portable avait été divulgué par ses détracteurs sur les réseaux sociaux et donc qui avait été harcelé, menacé de mort. Et donc oui, c'est vrai que je décris ces phénomènes très viraux qui tout à coup qui sont des bulles comme ça qui se créent de façon très 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 rapide et de façon irrationnelle et avec l'effet désinhibant de l'anonymat qui fait que mon Jean Roscoff, tout le monde lui tape dessus parce que c'est une sorte de silhouette, c'est un exutoire assez commode, mais sans qu'il y ait rien de personnel. Et c'est presque ce qu'il y a de plus horrible, c'est que quand c'est ceux qui l'ont harcelé, certains vont se faire juger à la fin du livre. Et il dit, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y avait même pas de haine, il n'y avait rien de personnel. C'est des gens qui réglaient quasiment des comptes avec eux-mêmes et se servaient de lui pour régler des comptes avec eux-mêmes.
Et ça, on l'a vu au procès justement des harceleurs de Mila, des gens qui disaient, mais c'était pour rigoler. Enfin, il n'y avait rien. J'avais rien contre elle, je m'en foutais d'elle. Il fallait participer, c'était drôle. Quoi.
Ouais. Ce qui est, dans l'affaire de Mila, très étonnant quand on met cette espèce de nonchalance en regard avec la violence des messages. Donc c'est très très étonnant.
Alors Philippe Val, vous, votre dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, ça vous intéresse les réseaux sociaux? Vous avez cette phrase, vous dites « Les réseaux sociaux, c'est un détournement de l'usage d'Internet. C'est une machine de guerre et c'est comme si, après avoir inventé la bombe atomique, on s'était empressé de la distribuer à tout le monde sous prétexte qu'il y avait un marché. »
Absolument. Et je pense que la première fois qu'on en a parlé avec Abel, on disait c'est une révolution anthropologique. C'est un changement de paradigme, comme on dit dans le jargon.
Mais alors en quoi? Pourquoi? Parce qu'on dit souvent
pourquoi
ça.
Ouais. Parce que depuis pratiquement l'Antiquité, la culture européenne, ce qu'on appelle judéo-grec, la culture européenne, essaye sans cesse, jusqu'aux droits de l'homme, de rendre l'autre réel. C'est sa force à notre civilisation, en quelque sorte, la réalité de l'autre. Et tout d'un coup, il y a une machine d'une puissance incroyable qui rend l'autre abstrait. Mila, elle est abstraite. Quand les accusés, moi j'ai suivi ça de près bien sûr, disent « Ah bon, on ne savait pas que c'était grave », c'est parce qu'elle n'existe pas. Quand les terroristes, devant une terrasse de café, avec une mitraillette, tue 15 personnes, ils tuent 15 abstractions. Sinon, ils ne le feraient pas. Ils se sont radicalisés sur les réseaux sociaux. C'est une déréalisation de l'autre. Et c'est une catastrophe. Ça menace tout ce qui fait... ça menace les fondements même de notre civilisation, de respect de l'autre et de liberté.
Mais vous avez peut-être entendu tout à l'heure Vincent Trémollet de Villers, notre éditorialiste politique, qui disait « Oui, mais... je suis désolé, mais les réseaux sociaux, c'est aussi l'opinion publique qui retrouve la voix face à l'opinion publiée. » Il citait l'exemple du référendum de 2005, où dans les journaux, on assène qu'il faut absolument dire oui, et les gens ne sont pas d'accord. Et finalement, avec les réseaux sociaux, le résultat va peut-être être
différent. Souvent un coup de mensonge, c'est souvent un coup de mensonge que ça marche, voire le Brexit. Mais là où je ne suis pas d'accord avec notre ami Trémollet de Villers, c'est qu'en Iran, par exemple, ce qui se passe en ce moment en Iran, c'est sur les failles que le régime n'arrive pas à maîtriser les réseaux sociaux. Donc c'est dans ces failles que ça sert les jeunes femmes qui se dévoilent. Tandis qu'en Chine, là où le régime maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, ça sert la dictature, les réseaux sociaux.
Oui, c'est un peu ce rôle d'exutoire aussi. Hein.
Ça renforce les dictatures et ça affaiblit les démocraties.
Oui.
Et ça, c'est un vrai problème. C'est un danger permanent. Dans la vie, comme on en a parlé pour Mila, etc., mais aussi pour la politique. Parce que les fake news, les gens, pour vous, nous, par exemple, les journalistes, ils travaillent dans des structures dont l'argent est complètement pompé par les réseaux sociaux. On ne trouve plus de financement pour faire de l'information. La publicité, aujourd'hui, ça a disparu, tout est pompé par...
Mais est-ce qu'il n'y a pas que les ennemis de la liberté qui veulent fermer les réseaux sociaux, Abel Quentin?
Moi, je suis d'accord avec Philippe, c'est-à-dire que je pense que les mots catastrophe, les mots changement civilisationnel, changement de paradigme ne sont pas trop forts, sont des mots adaptés. Je pense, j'ai même lu un article d'un paléontologue qui disait qu'en fait, 2007, l'arrivée du smartphone, pour lui, c'est une date importante dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il va changer...
De l'anthropocène.
De l'anthropocène, c'est ça. Et je suis d'accord avec ce tableau sombre, je le partage totalement. Et il faut faire le bilan. C'est pas parce que la technologie existe qu'elle s'améliore de jour en jour qu'on n'est pas en droit de questionner si elle est un réel progrès. Et pour moi, le bilan, il est négatif. C'est-à-dire, le compte n'y est pas. Et si vous voulez, ce que ça permet, c'est vrai, dans des pays qu'on parlait d'Iran, certes, ça a permis probablement les révolutions arabes, ça permet un certain nombre de choses, mais il faut avoir une analyse coût-bénéfice, comme un économiste, se poser la question de qu'est-ce que ça détruit, qu'est-ce que ça apporte. Aujourd'hui, en Occident, ça détruit, et je ne suis pas du tout sûr que ça permette à l'opinion de s'exprimer, dans la mesure où c'est aussi un déformateur d'opinion, oui, via les algorithmes, de suggestion. Et donc, je ne suis pas du tout sûr que ce soit...
On en a parlé tout à l'heure avec le psychologue Michael Stora. Il nous expliquait cette logique de bulle informationnelle dans lesquelles nous enferment les algorithmes, dans le but, évidemment, de nous contenter afin qu'on reste le plus longtemps possible. Vous citez Albert Camus dans Le Voyant des Tempes, lui qui souhaitait échapper, je cite, « au siècle de la polémique et de l'insulte et à ce monde de silhouettes où on ne voyait pas le regard de celui qu'on insultait ». Phrase qui est d'une contemporanéité absolument incroyable. Finalement, les réseaux sociaux sont les enfants, quelque part, de la société du spectacle, mais qui n'est pas nouvelle. Elle existait, est-ce qu'elle n'existait pas déjà à l'époque de Louis XIV, par exemple? La société de cour, n'était-ce pas déjà une forme de réseau social, si on tire un peu sur la corde?
Il y a tout un discours qui consiste à dire, finalement, c'est... Il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de changement de paradigme. Il y a un changement de paradigme. Alors c'est sûr que la vanité, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de...
Cette éditorialisation de sa vie, disait Michael Stora.
Ça a toujours existé, mais là, on lui donne un amplificateur qui est d'une puissance sans précédent.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Moi, voilà. Je pense qu'il y a déjà une chose. Les enfants... Il ne faut pas qu'ils s'en servent. Pourquoi ? Il n'y a pas d'effacement de mémoire. Quand à 13 ans, on écrit des grosses bêtises sur TikTok, ils peuvent ressortir 30 ans plus tard, quand vous avez un poste de ministre et vous êtes mort au bout de deux jours parce que ça fera la une du monde. Donc stop, pas les enfants. Tant qu'on ne sait pas réguler ce truc-là, pas les enfants. 18 ans, il faut arrêter. Ensuite, je pense que moi, j'étais directeur de publication, j'étais 20 fois devant la 17e chambre correctionnelle de Paris, et parce que j'étais responsable du contenu de mon journal, y compris du courrier des lecteurs. Eux ne sont pas responsables. Il faut un responsable national par pays, un responsable national qui soit directeur de publication, responsable devant les tribunaux des propos publiés sur les réseaux sociaux. Pourquoi échappe-t-il à la loi alors que personne en France, ni en Europe d'ailleurs, n'échappe à cette loi? Il n'y a que les propriétaires des réseaux sociaux.
Un journal avec 66 millions de journalistes, ce serait ça, le patron de Facebook France.
Qui se débrouille. Il faut qu'il soit. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas responsable pénalement.
Merci Philippe Val. Je renvoie à votre dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu paru il y a quelques mois. Et merci Abel Quentin d'être venu nous voir votre Voyant des Tempes aux éditions de l'Observatoire, prix de Flore l'année dernière. Tiens, j'en connais un qui était dans le jury du prix de Flore l'an dernier.
Je suis toujours dans le jury parce qu'il n'a pas bougé, et j'avais voté pour Abel Quentin. Normalement, il ne faut pas le dire, mais je le dis parce qu'il est là. C'est les pédales, j'aurais rien dit.
Quel vrai gorneur.
Non, il le sait en plus. On lui a déjà dit, puisque c'est prix de Flore, c'est extrêmement communicatif. Il y a une grande fête après, et donc je lui avais dit.
Bon, il était dans les listes, les shortlists d'à peu près tous les prix l'an dernier.
Bon, les shortlists, vous savez, il y a beaucoup de prix où les jurés ne lisent pas les livres. Ça ne veut pas toujours dire grand-chose, les listes.
À Philippe Vandel, qui lit toujours
contrairement aux gens du Flore.
Alors dites-moi tout d'ailleurs. Culture Média sur Europe 1, ça démarre dans 5 minutes au programme.
Léa Salamé et Christophe de Chavannes, c'est eux qui vont prendre une case emblématique, la reprendre. C'était Ardisson, tout le monde en parle. Ruquier, on n'est pas couché. Ça va s'appeler Quelle époque. C'est présenté par Léa Salamé et Christophe de Chavannes sera invité permanent.
Elle continue la matinale.
Pardon ?
Elle va continuer la matinale.
Elle va continuer la matinale, mais elle a arrêté l'émission politique. Et là, elle dit, c'est une nouvelle facette d'elle-même et vous allez l'entendre avec les blagues de Chavannes. J'aurais jamais pensé qu'il ose dire ça d'elle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on l'a enregistré hier, parce que le matin, elle est en matinale. Donc, je sais ce qu'il y a dans l'émission et c'est assez dingo ce que dit Chavannes. Et puis ensuite, Daphné Burki, elle est à l'affiche d'une série qui va démarrer sur France 5 qui s'appelle Cher Tendre. Ça parle d'intersexuation. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne savais pas.
C'est
les gens qui ne se sentent ni garçon ni fille. Vous savez quoi? Ça concerne 2% de la population mondiale. Il y a autant de personnes intersexuées en France que ce qu'il y a de roues et de rousses.
Et les roues sont... Attendez, je ne comprends plus rien.
Juste pour dire que ce n'est pas un phénomène marginal. On n'a pas l'impression que c'est 2% de la population et on n'en parle jamais. Eh bien là, on en parle. C'est comme l'homosexualité n'existait pas dans les romans avant Proust ou alors sous un jour négatif.
Enfin, il y a Vautrin, enfin si quand même.
Ouais. Oui, bon. Mais Vautrin, il est négatif.
Bon, allez, je rends l'antenne, Philippe, bon parce que je vais vous mettre en retard. En tout cas, je vous souhaite une bonne émission, chers auditeurs. J'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui. Notre vendredi thématique se poursuit chez Romain Desarbres à midi et ce soir chez Pierre de Villeneuve. On se retrouve lundi. Demain, c'est Lénaïque Monnier qui vous accompagne dès 6h. Bonne journée.